always dream about how it will be. To feel your arms around me, yeah, let it sink in. Yeah, I just let it sink in. You and me, wonder how it feels to help you cheek to cheek. This is not reality, or let it sink in. Yeah, I just let it sink in. Always changing all the scenery. Oh, why I'm living in this fantasy. Don't know, let it sink in. Yeah, I just let it sink in. In a dream, said you wanna buy me pretty little things. Take me around the world, nah, nah, let it sink in. Yeah, I just let it sink in. All I know is such a sweet fantasy, but I can stay like this forever.
Douceur ce matin, ça va contrebalancer un petit peu les infos. Quoique c'est pas si, anxiogène ce matin. Si c'est quand même, on a notre petit cortège de mauvaises nouvelles bien sûr. Mais deux trois petits trucs sympas pour s'alléger un peu le moral en fin de revue de presse pour repartir de l'avant. Comment ça va vous? Heureux de vous retrouver. Salut mademoiselle Dumaine. Vous voyez que cette résolution non pas de début d'année mais de fin d'année. De reprendre les revues de presse à un rythme le plus important possible. Elle est tenue. On était en revue de presse hier matin. On a été tard hier soir sur du GTARP. Je pense que je me suis endormi vers 2h30. Et on est quand même là ce matin. Mais ça va. Ouais. Oui, petite barbichette. Du coup, j'ai le temps de jouer, mais j'ai pas le temps de me raser. Bonjour, j'ai entendu dire qu'il y a eu un braquage hier à un musée. Je suis pas du tout au courant, Mix. Non, braquage, musée. 10h30, c'est plutôt la grâce mat, Étienne. Arnold, si tu veux, tu te fais comme moi, tu te couches à 2h30 et puis tu te lèves à 6h pour lire les journaux pendant 3h. Et puis vas-y, vis ma vie, viens, mon chouchou, viens. T'en donner des grâces, ma Tétienne, moi. Hein, c'est pas parce que je lance le stream à 10h30 que je me suis levé à 10h30. Hein. Les journaux, faut les lire. Hein. C'est dingue, ça. Tiens, tu sais ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, c'est toi qui vas les lire. Moi, je vais arriver, je vais appuyer sur débuter le streaming et let's go quoi. As-tu réussi à payer les 125 000 hier? Attends, je crois même que c'était à 150 000 même. Voilà, enfin, ça a été une soirée très compliquée. Mais on a réussi à collecter les fonds, ouais. Ouais, c'était drôle. À propos de collecte de fonds, je cherche toujours mon streamer invité pour ma soirée Téléthon Gaming, là, sur France 2 et sur Twitch. Voilà, j'espère pouvoir vous annoncer ça très bientôt. C'est bien, je pourrais voir la fin du stream à midi. Ouais. Oui, on va être ensemble jusqu'à midi 30, 13h, je pense. Ouais. Il y a de belles choses maintenant dans l'actu. Il y a des choses fortes. Il y a des choses très touchantes aussi. Il y a des papiers qui m'ont vraiment ému. Vous allez voir, il y a de très beaux papiers ce matin sur des sujets, notamment l'affaire Pellico. Ouais. Loulou Mimi, beaucoup disent qu'il y a eu un cambriolage chez les parents d'Inox. Alors, Loulou Mimi, dans ta phrase, il y a deux trucs qui ne vont pas. Il y a beaucoup disent. Alors en fait, en matière d'information, il faut toujours sourcer une info. Alors beaucoup, ça veut rien dire. Une info qui commence par beaucoup 10, c'est pas une info. C'est même le début d'une désinformation, voire d'une intox. Beaucoup 10, qui est beaucoup, on sait pas. Voilà. Le Monde dit, l'AFP dit, BFM dit, France Info dit, ça c'est une info. Voilà. Comme ça, si elle est pas bonne, on sait qui aller voir. Beaucoup 10, c'est le début de quelque chose qui va pas. Et effectivement, c'est un exemple de comment on doit s'informer. C'est pour ça que je prends exprès le tweet de Lou Mimi qui, le pauvre, qui n'en demandait pas tant. La suite du message de Lou Mimi, c'est beaucoup disent qu'il y a eu un cambriolage chez les parents d'Inox. Et si tu étais allé voir des sources d'informations un peu fiables, tu te serais rendu compte que, en fait, c'était un cambriolage à l'ancien domicile des parents d'Inox. Et hélas, les victimes de ce cambriolage, parce que manifestement, il y a eu des violences, ce sont les nouveaux propriétaires du logement. Ce qui n'enlève rien, d'ailleurs, à la gravité de l'affaire. Mais tu vois, alors ce n'est pas du tout pour t'embêter, hein, Lou Mimi, mais l'information, c'est ça. Une source, beaucoup, ce n'est pas une source. Beaucoup disent ce qu'il dit. Et quand tu vas voir une bonne source, tu vas te rendre compte que l'information n'est pas celle que tu donnes. Et sans le vouloir, évidemment, on ne va pas se limiter à cette source d'info pour savoir ce qui s'est passé à la tienne. Mais à un moment, il faut aller chercher une source d'information fiable. Voilà. Mais c'est vraiment une dinguerie, ce truc. Ouais. Bon, vous, comment ça va? Merci, les Ramus, exactement. Bah, moi, bien, je suis très heureux. Très heureux de rendre la revue de presse. C'est qui, Inox? Ça troll de bon matin ou... Tilbaris, est-ce que tu as comme moi, tu as 95 ans? Enfin, parce que je pense qu'à part les gens de plus de 95 ans comme moi, je pense que tout le monde sait qui est Inox. Je pense que ça troll, ou alors tu es très âgé, et auquel cas je te félicite, parce que je suis très heureux aussi de voir des personnes vieilles comme moi dans ce stream. Oh, 7-7 Tsubasa. Oh, t'envoies de la force. Ça me rappelle une affaire en Corse où un pauvre homme s'était fait assassiner parce que le tueur avait confondu les 4-4 diesel. Je me rappelle très bien de cette histoire. Ouais. X, est-ce que c'est une source d'info fiable? Bah non. Bah, si c'est un tweet sur X qui cite un article du Monde, tu peux considérer que ça peut être éventuellement une source fiable. Mais en fait, X, c'est pas une source d'info. Ce sont des gens qui citent des sources. Enfin, ou ce sont des sources elles-mêmes. Je ne sais pas si Le Monde est encore sur X. Je me demande si Le Monde n'a pas quitté X, d'ailleurs, le réseau social. Mais imaginons que Le Monde fasse un tweet sur une info. Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, Libération. Tu peux considérer que c'est peut-être une source fiable, puisque l'émetteur, tu vois à peu près ce que c'est, quoi. Et en fait, le Guardian a quitté X, tu as raison, ouais. Il y a un journal espagnol aussi qui a quitté X. Il y a de plus en plus, il y a quelques médias traditionnels qui commencent à quitter X, estimant que ce qui se passe sur ce réseau, ça ne va pas du tout, quoi, en matière de désinformation et de lutte contre divers excès. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas tellement le tuyau. X, c'est un tuyau. C'est la source. Voilà, c'est qui émet ce message. Et en fait, quand vous voyez une information, une des premières questions que vous devez vous poser pour établir sa véracité, c'est quelle est la source? Qui est à l'origine de cette info? Voilà, je dis ça rapidement, quoi. Ah, tu fais pas 95 ans, parce que je mets beaucoup de crème. Ah. Oh, merci, j'ai pas remercié les subs de bon matin. Erwin, merci pour le 5e mois. Yurezi pour le 2e mois. Matt pour le 39e mois. De Bangalore? C'est où Bangalore? C'est en Inde, Bangalore, non? Tu reviens de Bangalore? C'est en Inde, Bangalore. Incroyable, ça. Qu'est-ce que tu faisais à Bangalore? Boulot? Capitale de l'état de Karnataka, dans le sud de l'Inde. Pôle le plus important de la haute technologie en Inde. La ville est aussi connue pour ses parcs et sa vie nocturne. La question que je me pose, c'est... Matt, est-ce que tu es allé à Bangalore pour la tech ou pour la vie nocturne? Je dis ça, je dis rien. T'as un avis sur Le Monde? Le monde en général avec un petit M comme tu l'as écrit, TRK polyvalent, ou Le Monde avec un gros M, c'est-à-dire le journal? Vous voyez, une information, ça tient à ça aussi. C'est chaud, c'est très chaud l'info. Mais une lettre et tout le sens de la phrase change. Est-ce que TRK polyvalent me demande mon avis sur Le Monde en général? Mon avis, c'est qu'il n'est pas en pleine forme et que ça pourrait être encore pire. et qu'on va peut-être réussir à l'arranger, nous, les générations futures, je suis nature optimiste, ou est-ce que ta question, c'est qu'est-ce que je pense du monde, le journal, avec, dans ce cas, il faut mettre un grand M, hein, tu vois, et dans ce cas-là, justement, je trouve que c'est un des journaux de qualité en France qui peut être considéré comme une bonne source d'information. Tu vois que je mets des conditionnels et des bémols parce que, en fait, même de la source d'information la plus sérieuse et rigoureuse possible, eh bien, il faut toujours prendre une info avec prudence. Et idéalement, multiplie les sources et quand un média unique donne une info tout seul, s'assurer que d'autres médias de qualité donnent cette même info au même moment ou quelques heures plus tard après vérification de cette information, parce que la multiplication des sources de qualité est une façon pour toi de t'assurer de la véracité de la qualité d'une info. Voilà. Toi, je suis en pédagogie de l'info ce matin, c'est très mignon. Mix, mon pauvre Mix. Sérieux? Waouh. Ok. Il y a des messages comme ça qui interpellent bientôt potentiellement virer de ma propre entreprise. Je suis bien dans ma game. On t'envoie de la force Mix. Ce matin, je me demande où sont les agriculteurs. On parle beaucoup des 1000 jours de guerre en Ukraine, mais peu des blocages. Parce qu'en fait, alors Cyberotine, je ne vous ai pas mis d'article là-dessus ce matin parce qu'on a parlé du mouvement des agriculteurs hier dans la revue de presse, mais tu as raison. Un article que j'ai lu ce matin, c'est que les agriculteurs ont choisi pour l'instant des blocages soft, c'est-à-dire des manifestations, des présences, mais pas de blocage. Pas de blocage. Voilà. Et du coup, certains s'interrogent de savoir si c'est une bonne stratégie, parce que du coup, ça ne bloque pas, ça n'impacte pas. Du coup, finalement, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de mouvement des agriculteurs, alors qu'il y a un mouvement des agriculteurs, notamment pour dénoncer le Mercosur et d'autres choses. Et les médias, du coup, on parlait pas trop ce matin. Bonne question. Kiotis, Wikipédia a pas mal évolué sur la vérification des informations sur leur site. C'est devenu une source fiable ou plus ou moins fiable? Je dirais plus ou moins fiable. Wikipédia est un bien meilleur instrument que certains ne pensent. Certains sont restés sur une vision ancienne de Wikipédia, un truc collaboratif plus ou moins précis. Il y a des articles de Wikipédia qui sont d'incroyable précision et d'une incroyable rigueur. Mais n'oublions pas que les articles de Wikipédia sont écrits par des contributeurs de Wikipédia. Et en fait, ce processus de travail arrive à parfois des articles d'excellente qualité, et puis parfois moins. Voilà. Et un article peut être excellent, et en plus cet article peut voir sa qualité évoluer dans le temps. Il peut être excellent au mois de janvier, il peut quelques mois plus tard, parce qu'il a été modifié et pas dans le bon sens, perdre en qualité, il peut redevenir bon. C'est intéressant, moi je suis ma propre page Wikipédia, par exemple, parce qu'il y a des gens qui ont créé une page sur moi il y a très longtemps, et je suis son évolution, et parfois elle est bien, parfois elle est catastrophique, elle évolue, et parfois il y a des erreurs dedans, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est, alors ça Wikipédia le fait très bien, dans une page de Wikipédia, à la fin tu as les sources, voilà, tu as les sources de l'info, voilà, ça c'est très important. Wikipédia est un outil qui fait très attention aux sources. Et parfois, tu peux t'apercevoir qu'à la marge, les sources de Wikipédia ne sont pas toujours excellentes. Et parfois, elles le sont. Voilà. Donc, globalement, je trouve que c'est un très bon outil. Voilà. Voilà. Mais comme toute source d'information, il faut le prendre avec prudence. Le monde n'a pas quitté X. Merci. Mais non, je me posais la question. J'ai pas remercié les subs. Agressif. Hard Rock Gamer, 14 mois. Auditoré, merci pour le 16e mois. Erwin, Yurezi, Matt, encore merci. Boustiflon, merci beaucoup pour le soutien. The Original Pimous, 32 mois. Oh, c'est trop mignon, c'est énorme. Juroskov, 34 mois, c'est gigantesque. Adrien, 31,50, 30 mois, c'est fou. Jérôme Cab, merci pour ton soutien. Glacon, Glacède, Glaçon peut-être. Je ne sais pas si on peut mettre des CDI dans les pseudos. Merci pour le soutien, Natsuro, Milling Brass, JL Hermès, Le Nomade, Falabo, Yamaponk, Kirimanjaro. Et à l'instant, santé, mais pas des pieds, mon ami, 24 mois, et Tony, RND pour le 18e mois. Oh, et Adri Maslia, merci pour ton message qui me touche. Ouais. Il ment, il n'a pas 95 ans, j'ai vérifié chez Wikipédia, source fiable. Peut-être que l'article de Wikipédia se trompe, on ne sait pas. C'est la Vanguardia qui a quitté X ? Merci. J'ai les articles sur l'actu internationale ce matin qui sont d'une grande qualité. Le club de football allemand, le Werder de Brême, a aussi quitté X en expliquant que depuis la reprise du réseau par Elon Musk, c'est le Fennec qui me dit ça, le réseau social ne convenait plus du tout, surtout politiquement. Ok. Intéressant. Stream d'anthologie hier soir, je me régale sur GTRP. Tu penses quoi de Ouest France ? Un très bon quotidien régional, Alan. Excellent. Bizarre que Le Monde porte une majuscule et Le Monde, non, c'est l'inverse au Desbois. Le Monde, le journal, c'est un nom propre, majuscule. Et Le Monde, quand tu parles de la planète, nom commun, donc minuscule. C'est l'inverse. Ce serait l'inverse qui serait bizarre. Voilà. C'est le charme de la langue française. Je lis vos messages parce que c'est, je me régale. Une lettre qui change le sens. On en parlait du Monde et du Monde. Un coup, exemple, l'avocat prend le parti de l'accusé. L'avocat prend les parties de l'accusé. C'est pas la même phrase. Il peut faire les deux aussi, hein, ça dépend. J'ai pas vu ce qui se passe en Finlande, dit Pac. Il se passe quoi en Finlande ? Raconte-moi, raconte-moi. T'as la qualité, franchement, je vais pas vous flatter, mais il y a une qualité de chat. Chaque message me donne envie de lancer un débat intéressant. Ouais, on va parler des grèves de train. Monta, on va parler des motivations des grèves de cheminots ce matin, puisque hier, on a parlé des perturbations à venir. Mais on a fait le constat ensemble qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'infos sur le pourquoi de la colère des cheminots. Et ce matin, je vais trouver un article dans Le Monde, je ne sais plus, qui pour le coup le raconte très très bien. Ouais, on va en parler aussi ce matin. On y apprend que tu es chevalier. Je suis chevalier des arts et des lettres. Ouais, c'est vrai. Ce qui n'a aucun sens. Ouais, et bien sûr sur Wikipédia, comme le dit Soul Caribou, l'historique de toutes les modifs, par qui et éventuellement pourquoi. Je me demande pourquoi Wikipédia fait tant d'appels aux dons, sont-ils en difficulté financière ? Parce qu'ils n'ont pas de pub, Gary. Salut Alexandra, j'ai très bien dormi. Sauf erreur de ma part, Wikipédia ne poste pas de pub sur ses pages, hein, je ne crois pas. Bah, donc le truc a un coût quand même, lié au serveur, je suppose. Donc ils ont besoin d'un minimum de... Je suppose, hein, je ne connais pas leur modèle économique. Mais je crois qu'ils ont besoin. Moi, je donne de temps en temps à Wikipédia. C'est mon beau-père, Damien, celui qui m'a offert ce beau tableau de Tintin, qui est un consommateur de Wiki aussi, qui est un grand passionné, qui suit beaucoup l'information, et qui m'a dit, un jour, il m'a dit, on le consomme, quelque part, peut-être qu'il faut les soutenir. Et puis, je me suis dit qu'il avait raison. Voilà. Donc, de temps en temps, je file quelques euros à Wiki. Trump a quitté X aussi ? Non, il a été viré, Mrousse. J'adore. Mrousse, Trump a quitté X aussi. Non, il a été viré. Il a été réintégré après. Et puis, il a décidé de ne pas trop y revenir. Moi, je crois qu'il a fait, il a fait un tweet depuis son retour, ou deux, très très peu. Mais puisqu'il a créé son propre réseau social, potentiellement qui peut lui rapporter des sous. Donc, il n'a aucune raison à aller sur X. Puisque, c'est quoi, c'est Truth ? Comment il s'appelle son propre réseau ? Voilà. Ouais. Ouais, Truth Social. Mais à la base, il a été viré de Twitter. Voilà. Parce que justement, en matière de désinformation, notre ami est un champion. Et puis, il a été rétabli. Et je crois que du coup, il ne tweet pas beaucoup. Mais du coup, ce n'est pas lui qui a quitté X. Même s'il n'y est pas vraiment revenu. Prochain live GTA, Cathy, mercredi soir. Ce soir, le grand retour d'Elden Ring. Merci Mackenshai, merci Adrien Maslia et pour le message. Le grand retour d'Elden Ring, vous avez été assez nombreux à me dire, mais quand le retour d'Elden Ring, ce soir. Je suis en train d'arriver au bas du chat. J'ai pas le temps de rattraper toutes les lives, il y en a trop. Il n'y en a pas tant que ça en vrai, mais ils sont longs. L'importance de la ponctuation est soulignée par Hazard01 aussi, avec l'exemple « Venez manger, virgule, les enfants » ou « Venez manger les enfants », sans virgule. Ça n'est pas la même phrase. Merci Swordy, merci Anthony Wo. Que conseilles-tu comme premier journal pour une personne de 25 ans, Adélaïde Demo ? Chaque journal que je lis, je le trouve pertinent et intéressant, en vrai, quel que soit ton âge. Ce que je te propose, si tu veux, c'est d'en acheter un de temps en temps. Voilà, et puis de faire ta propre opinion. Tu vas en trouver un plus agréable à lire que l'autre, plus proche de tes préoccupations, tu vois. Voilà. Mais franchement, je ne saurais t'en conseiller un en particulier. Tu penses quoi des gens qui mettent du lait dans leur omelette ? Je ne sais pas, monsieur Manhattan, je ne suis moi-même pas un très grand cuisinier. Je suis abonné à tous ces journaux, oui, Clémouze, oui. Ce qui me semble bien le minimum, je promeus cette presse écrite quotidienne que je trouve de qualité. ce serait quand même un comble que je ne l'achète pas, quoi. Donc je suis abonné à tous ces journaux. Voilà, parce que ce qui est quand même le minimum, quoi. Et comme le dit Sugar Frog, Trump n'a pas besoin de tweeter sur X puisque Elon Musk le fait pour lui. Très bonne remarque. Et Valo, prochain live Valo. Je suis triste pour Nadal, on va parler de Nadal ce matin. Enfin, dernier tournoi pour Nadal, Coupe Davis. Ouais, on va en parler, c'est la une de l'équipe. Prochain live Valo. Je suis très en forme cet après-midi, mais j'aimerais bien faire du sport aussi. Je vais voir. Parce que, ouais. Revue de presse le matin, Elden Ring ce soir. Deux streams, c'est cool déjà, tu vois. Je peux en faire trois, mais... Après, j'ai peur de trop faire, quoi. Putain, je pensais être arrivé à la fin du chat, mais il y a d'autres messages qui arrivent. Tony, as-tu un conseil pour parvenir à s'exprimer facilement et clairement en public? C'est une très bonne question, ça. Qui se pose notamment à ceux qui passent des oraux. Moi, je raconte toujours la même anecdote. Un jour, j'ai été invité à un grand réalisateur que j'adorais, qui est décédé. Il s'appelait Patrice Chéreau, qui était un grand réalisateur, un grand dramaturge, un grand chorégraphe, et dont j'ai eu la chance de devenir ami après. Et il m'a invité un jour à présenter son dernier film en public dans un cinéma parisien, pour l'avant-première en quelque sorte. Et moi, j'étais présentateur depuis quelques années déjà, et donc parler, raconter des trucs, ça me stressait pas du tout. J'ai accepté ça avec très facilement, sans m'interroger plus, quoi. Et je suis arrivé devant ce public et j'ai vu des quelques centaines de pères d'yeux braqués sur moi. En plus des gens un peu... Bon, Patrice Chéreau, c'était un homme de lettres, c'était quelqu'un qui parlait mille langues, enfin, c'était un personnage fascinant et il était très cultivé et les gens qui l'avaient invité, manifestement, lui ressemblaient un petit peu, quoi. Donc j'ai vu des centaines de pères d'yeux se poser sur moi et clairement, j'ai vu que c'était des gens plutôt exigeants en matière intellectuelle. On veut dire ça comme ça. Et moi, j'avais vraiment écrit un texte de merde, voilà. J'avais écrit un texte de merde, un texte pour faire rire des collégiens, quoi. Et en fait, et là je vois le public et je fais oh putain, oh mais mon texte il... et donc mais vraiment oh quel moment de solitude. Et je commence mon petit truc et je vois que vraiment le j'avais une ou deux petites vannes qui vraiment ne fonctionnent pas du tout. Et je vois ses regards sur moi et je vois que ça ne rit pas. Et là, ce jour, j'ai compris que parler à une caméra, qui est un objet inanimé fait de plastique, de métal et des lentilles en verre, et parler à un vrai public, c'était deux choses différentes. Et alors moi, je n'avais jamais parlé en public. Et en fait, je me suis rendu compte que parler à un public qui réagit et potentiellement peut mal réagir, c'est-à-dire témoigner de l'ennui ou de l'agacement ou de la pitié, c'était autre chose que de parler à une caméra. Voilà, donc... Et donc de ce jour, j'ai pris la parole en public de façon au sérieux. Voilà, j'ai un peu plus préparé mes interventions. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'interviens régulièrement dans des mini-conférences pour parler, par exemple, de Twitch, quand on m'invite à le faire, par exemple. Et ça va beaucoup mieux parce que je suis passionné par le sujet et que je le connais un petit peu. Donc ça va tout seul. Donc pour répondre à ta question qui m'était posée, un truc que j'avais trouvé pour parler à une foule, sans être stressé par le regard des autres. Parce que sur une foule, tu vas parler, il y a des gens que ça ne va pas intéresser. Statistiquement, il y a des gens qui vont n'avoir rien à foutre de ce que tu racontes, voilà, et qui vont regarder ailleurs, qui vont se limer les ongles, qui vont se curer le nez, qui vont parler à leurs voisins et qui n'ont rien à foutre de ce que tu dis. Et ça peut être un peu déstabilisant, même si par ailleurs, tu en as d'autres qui écoutent. Donc moi, ce que je faisais, voilà, je n'ai plus besoin de le faire, mais ce que j'ai longtemps fait, c'est que je regardais entre les gens. Je ne regardais pas les gens. Je ne regardais surtout pas les gens dans leurs yeux. Je regardais entre les gens. C'est-à-dire, je regardais la foule et je vis... et je visais toujours entre deux personnes. Donc je ne regardais personne. Donc je voyais globalement la foule, je ne voyais pas les réactions, je ne voyais pas... Non, pas l'entrejambe. Je ne voyais pas les visages, je ne voyais pas les sourires, je ne voyais pas les réactions, voilà. Et je... c'est pour ça que je suis mauvais sur Valo, exactement. Tiens, moi, je valide la blague. Et donc je regardais entre les gens, et donc je ne voyais pas les réactions. Et donc je racontais ma petite histoire. Sans... Et je donnais l'impression aux gens que je la regardais, et en fait, je ne la regardais pas. Maintenant, je n'ai plus besoin, parce que... Voilà. Non, je ne regarde pas l'entrejambe. C'est un bon petit truc, en vrai. Voilà. Alors, quand c'est un jury de deux ou trois personnes, c'est plus compliqué. Voilà. Dans ce cas-là, je conseille de ne pas regarder les yeux, de regarder, je sais pas, un détail du visage, le front, le nez de la personne. Ouais, un truc comme ça, ou un petit peu à côté, ou l'oreille, un truc un petit peu à côté, je sais pas. Sauf si t'es vraiment très à l'aise sur le sujet, voilà, et tu es à l'aise dans cet exercice, auquel cas, au contraire, tu vas pouvoir aller chercher un petit peu le regard de l'autre, sans t'imposer, sans que ce soit un regard agressif, mais tu peux aller chercher le regard justement pour partager ta passion, et là, il se passe encore autre chose, quoi. Merci Tida, merci The Voyageur, merci Diana. J'espère que j'ai remercié tout le monde. Maintenant, ça va. Samuel, plus tu stream, plus tu rajeunis, je trouve. C'est la crème, Jérôme. Peux-tu expliquer pourquoi Trump a été viré de X alors que Elon Musk était l'un de ses plus grands soutiens? Parce qu'à l'époque, tout simplement, Elon Musk n'était pas du tout propriétaire de X, Marion. C'était l'époque de Twitter, c'était les anciens proprios. Voilà. La reine Margot, ouais, c'est Patrice Chéreau. Ouais. Hein? Le grand Patrice Chéreau qui est parti, qui est décédé beaucoup trop tôt. Qui était un homme incroyable, magnifique. Et de temps en temps, on prenait un café tous les deux. Et je me demande à chaque fois, mais pourquoi cette personne qui était vraiment d'une intelligence incroyable et d'une culture immense pourquoi on prenait des cafés ensemble, alors que moi j'avais des petites histoires de présentateur télé à raconter, voilà. Et c'est quelqu'un qui m'a fait cadeau de son amitié que j'ai connu tard, dans les dernières années de sa vie, je pense souvent à cet homme. Les conférenciers sont chanceux, on dirait qu'ils sont imperméables à ce stress. Il peut y avoir une personne dans le public qui dort et ils continuent inlassablement leur récit. Parce qu'ils sont habitués sous le caribou. C'est parce qu'ils l'ont fait plein de fois. Quand tu répètes un exercice plein de fois, à un moment, tu le fais de façon quasi automatique, quoi. Et sinon, Samuel, est-ce que tu vas mettre en vente les préservatifs? Puisque j'ai lancé mon merch et j'ai un premier échantillon. Pourquoi pas, en vrai? Pourquoi pas? Je pense que si je lance un merch un jour, ou 10 casquettes, je mettrai des présos aussi. Des présos rigolos. Comment tu fais pour lire le chat en même temps que tu parles pour ton stream? Ça, c'est mon super pouvoir. C'est du spam. Il y a un seul truc. Il y a un truc. Moi, je pense qu'on est tous forts dans un truc. Voilà. Et moi, il y a un seul truc que je sais faire. Je sais lire, c'est tout. Depuis toujours, je lis très vite. Voilà, c'est mon super pouvoir. Je ne sais rien faire d'autre, en vrai. Je ne sais rien faire d'autre. Je lis très, très vite. Voilà. Tout petit déjà, moi j'adorais aller lire, je lisais tout n'importe quoi, les livres, les magazines, les affiches publicitaires, ce qu'il y avait derrière les paquets de céréales, voilà. L'important pour moi, c'était pas tellement ce que je lisais, c'était de lire. J'adorais lire, et en fait je lis très vite, et donc c'est ce qui me permet de lire le chat aussi. C'est le seul truc que je sais faire. Merci monsieur, merci Albert pour la proposition, je vais revenir vers vous. Tant qu'il n'y a pas ta tête sur le préservatif, je valide. On verra. Sur le sujet des préservatifs, une fois le réservoir rempli et donc gonflé, est-ce qu'on va voir ta tête se former ou pas? Ce serait une surprise. Donc tu vas lire mon message. We are the light, je vais le lire. Enfin, je l'ai lu même. Qu'est-ce que ça fait, Sam, d'être à la fois la voix des jeunes Français et celle des générations plus âgées? Ça me rend très heureux, gentil virus. Ouais. Ça me rend très heureux, ça, cette situation. Je n'ai aucun mérite. Hein. C'est arrivé un peu par hasard. Être journaliste, ça n'a pas été du hasard. Je l'ai souhaité depuis que je suis enfant. Donc j'ai lu ton message, Elliot aussi. Ouais. Tu lis quel pourcentage de ton chat? On n'est pas loin de 100% en vrai. Voilà. Sauf quand je lis des articles où j'ai le nez un peu sur l'article, et vous verrez, là, je lis un peu moins. Mais quand j'échange avec vous, là, comme ça, je lis quasiment 100% du chat. Voilà. Ça, c'est, je sais faire ça. Ouais. Mais j'ai aucun mérite. Hein. J'ai pas travaillé pour ça. Hein. Voilà, c'est bon, le hasard de des trucs m'a donné ça, quoi. Et franchement, aucun mérite. Et donc, je disais journaliste, je suis devenu parce que je voulais l'être. Animateur, ça a été un hasard. Animateur, ça a été un hasard. C'est parce qu'un jour, on m'a proposé question pour un champion. Voilà, une succession de hasards et de planètes bien alignées. Après, par contre, j'ai bossé pour être à la hauteur de ce truc. Et puis après, il y a eu ce hasard merveilleux de la rencontre avec Étoile au début du confinement qui m'a fait découvrir Twitch. Voilà, donc ça, c'est le hasard. Et puis après, je me suis beaucoup investi. Voilà, parce que le hasard n'est pas tout. Le hasard provoque des choses. Et après, bien sûr, il faut ça savoir. Il faut pousser cette porte qui s'est entrouverte. Et ça, il faut s'investir. Il faut y passer du temps, de l'envie, appeler ça du travail si vous voulez. Moi, je pense, je crois que ça joue un petit peu aussi. Et voilà, aujourd'hui, ça me rend très heureux. Merci Atreus pour les lives GTA RP. Je t'avoue que je m'amuse comme un fou. Et t'arrives à trier toutes nos bêtises, je continue de penser que tu es trop fort. Vos bêtises, je les aime. Mystérieuse, merci à toi. Mystérieuse, tu sais qu'on n'est pas d'accord sur des trucs, mais j'aime bien que tu sois dans ce chat. Si tu lis tout, que penses-tu de la congo-lexicomatisation des lois du marché ? J'ai lu ton message, Guric, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Xadio, très très déçu que tu zappes ma question sur les entraves à la liberté d'informer, surtout lorsqu'il s'agit de rendre compte d'un conflit armé aussi important. Alors Xadio, pour le coup, je me suis fait avoir, parce que je lui ai dit que je disais quasiment 100% du chat, et Xadio a dit « donc tu as lu mon message », je ne l'ai pas lu, je vais dans ton historique. 6 messages, donc tu es très récent. Alors, par contre, tu copies-colles, tu spams un peu. Alors, Samuel, en tant que journaliste, 10h54. Pourquoi la corporation... Pourquoi il n'y a pas de corporation de journalistes ? On ne peut pas se saquer entre nous. Hein. Le journalisme, c'est un métier très individuel. Et voilà, les syndicats de journalistes ne sont pas très, très représentatifs. Voilà. Et on est très, très différents entre nous. Donc, il n'y a pas vraiment de corporation. Voilà. Mais je continue ta phrase. En tant que journaliste, pourquoi la corporation ne s'offusque pas plus que ça du fait que les reporters de guerre ne peuvent entrer à Gaza ? C'est un scandale, tu as raison. C'est un scandale, je ne peux pas le dire autrement. Et si tu demandes, aux journalistes français, si tu poses cette question, ils vont tous te répondre la même chose que moi. C'est un scandale, c'est scandaleux. Je poursuis la question de Xadio. Pourquoi la corporation, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, ne s'offusque pas plus que ça du fait que les reporters de guerre ne peuvent entrer à Gaza pour rendre compte correctement de ce qui s'y passe, hein ? Que penses-tu de cette censure journalistique ? C'est un scandale, c'est scandaleux. Voilà, je ne peux pas te répondre autrement. Et je pense que c'est l'avis de, sans doute, la quasi-totalité des journalistes français. Et je n'avais pas raté... Salut, merci Alexandra. Donc j'avais raté ton message, mais je ne l'avais pas, censuré ou... Voilà, je n'étais pas passé à côté, je ne l'avais juste pas lu. Donc je ne suis pas sur 100% du chat. Hein. Ah, je n'ai pas la ref de la congolisation, là. Eddie Malou, c'est quoi ça ? Si, le Fennec, j'ai vu ton message. C'est quoi cette histoire ? Eddie ? Attends. YouTube ? YouTube, il y a... Ça a l'air drôle, ça. Ok, on va regarder ça. C'est bien ou pas ? Tu as combien de modérateurs sur cette chaîne, Samuel ? Plein, et ils sont formidables. Je suis en train de mettre la Congo truc, là. La Congo-lexicomatisation des lois du marché. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'a inspiré pour faire ton métier ? Pas vraiment, non. J'avais juste une... Voilà, je voulais juste faire ce métier. Parce que, je sais pas. Let's go, ça a l'air drôle. YouTube.
À la boulette. Bonjour.
Bonjour, monsieur Fidèle. Le nom de mon père, c'est le nom du papa du savant de la République, Eddy Malou. Renaissance africaine comparée à la Renac.
Hein? Vous appelez comment ?
Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou, E-double-D-Y, trait d'union M-A-L-O-U. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses.
J'adore.
Cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République.
Mais il est génial. Merci JK, merci Godgoot, merci Tidam. Mais il est génial.
Démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais.
Quoi ?
congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Je vous en...
Monsieur Eddy, nous parlons d'un sujet sportif. Est-ce que connaissez-vous les relais?
Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. Hein. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Parce que, par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est le
Oui, mais nous, nous parlons du relais.
Du relais. Comme...
Relais.
C'est-à-dire, quand on parle de...
Il s'est un peu écarté du sujet, quand même. Hein. Le journaliste relance, c'est très bien.
Les relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir... C'est systématique.
Les relais, c'est pas dans les sports, c'est pas une discipline sportive.
Oui, ça fait allusion. Parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. C'est
oui, mais le sport, là, le relais, est-ce que vous le connaissez?
Oui, mais c'est clair. Ça fait allusion au redynamisme. C'est l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation. C'est-à-dire la réflexologie. Le réflexe.
Vous connaissez comment ça se pratique?
Les mots sont savants. Mais ça n'a aucun sens, hein. Je peux vous assurer que ça n'a aucun sens. Mais la forme est magnifique.
Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Quand on parle de relaxation, c'est les cinq sens qui doivent tourner. Nous avons à faire même ce qu'on appelle l'hyposmie qui doit être éventualiste sous cet angle-là, c'est clair. Quand on parle de l'air, c'est faire allusion à informatiser les sens dynamiciels vers l'humanisme. Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Oui.
Ah, quel bonheur! C'est trop chou. J'adore. C'est fascinant. Bravo à ce monsieur, en vrai. Voilà. On n'a pas beaucoup avancé sur le relais, mais c'est vraiment très bien. Oh, quel bonheur! Ben, je crois que je ne l'avais jamais vu, en vrai. Ouais. Après, on dit que l'IA remplacera l'homme, mais pas Eddy Malou. C'est sûr, l'IA ne pourra jamais... Ainsi, Grazio. Ouais. Je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer Eddy Malou. Mais jamais, jamais, jamais. Peux-tu lire la question de Voltan? Elle m'a paru intéressante. Ok, attends. Ok, Jean, je regarde ça tout de suite. T'as intérêt à ce qu'elle soit vraiment intéressante, hein, sinon c'est ban def. Alors attends. Je prends l'historique de notre ami. Alors, t'as intérêt, hein, sinon c'est ban def. Ah, Vega Missile, je connais par contre. Alors, selon toi... Ok, c'est une bonne question. Quel est le rôle du journaliste dans une époque marquée par la désinformation et les réseaux sociaux? Ah ben, elle est essentielle. Il y a Voltan qui dit, selon toi, quel est le rôle du journalisme dans une époque marquée par la désinformation et les réseaux sociaux? Comment les journalistes peuvent-ils regagner la confiance du public? Mais ta question, elle est essentielle. Ta question, elle est essentielle. Et ce rôle, il est essentiel. C'est-à-dire que, justement, à une époque où les sources d'information se sont... multipliés, ont explosé. Hein. Avant, les sources d'information, c'était le journal sur l'unique chaîne en France. Longtemps, il n'y a eu qu'une chaîne. Et quelques journaux, quelques grandes radios. Puis après, ce monde a explosé. Et tant mieux, l'explosion du nombre de radios, les radios libres, hein, au début des années 80. On a une presse magazine en France qui est une des presse magazines les plus riches au monde, les plus multiples, notamment en raison d'un circuit de distribution qui est soutenu par l'État. C'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est la presse magazine. On a une presse quotidienne qui, à mon sens, n'est pas assez multiple. Moi, j'aimerais qu'il y ait encore plus de journaux quotidiens. On lit moins les quotidiens en France, nationaux et régionaux, qu'on les a lus à une époque. Ça, c'est dommage, parce que pour moi, c'est une source d'information de qualité, sinon la meilleure. Et puis il y a eu les chaînes d'information, bien sûr, en France. D'abord Zéro, CNN aux États-Unis, et puis LCI qui se crée. Et puis ensuite, la deuxième, ça a été iTélé, qui est devenue CNews, puis BFM, puis France Info. Voilà. 4 chaînes d'info en France, c'est beaucoup. Et puis après, Internet, bien sûr. Et puis après, sur Internet, les sources d'information, elles sont multiples, elles sont énormes, elles sont gigantesques, et elles sont parfois... il est parfois difficile de déterminer leur qualité. Donc, le rôle journaliste, aujourd'hui, il est plus qu'essentiel. Parce que, justement, lui est censé, c'est un travail humain. Parfois, il passe à côté, parfois, il fait des erreurs, il fait des approximations, parfois, il fait mal son travail, comme n'importe quel professionnel. Il est censé apporter de la rigueur et de l'honnêteté dans la démarche d'information. Voilà, il est censé faire ça. Parfois, il le fait bien, parfois, il le fait moins bien. Voilà. Mais justement, dans ce monde où les sources d'informations sont multipliées et où il est de plus en plus difficile de savoir si l'information qui parvient à toi vient d'une source d'information fiable, et non, l'objectivité, justement, non, Thomas. L'objectivité est un faux concept. Enfin, un concept qui n'est pas valable en journalisme. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour ça que je parle de rigueur et d'honnêteté et non pas d'objectivité. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Mais donc, le rôle du journaliste, il est essentiel parce que justement, il est censé nous aider à nous y retrouver dans cette explosion des sources d'informations. Voilà. Attends, je lis des trucs tellement drôles dans le chat, mais tellement mignon, vous avez un humour de fou, j'adore. Et alors, par rapport à l'objectivité, ça, c'est un truc que tu entends très souvent. Le journaliste idéal, le meilleur journaliste, le journal idéal, c'est le journal ou le journaliste objectif. Celui qui met de côté toutes ses opinions pour vous informer, en mettant de côté ses opinions, en ne vous rapportant que les faits. Il y a des médias qui, par nature, tendent vers ça. Voilà. Qui, plus que d'autres. Pourquoi ? Parce que ce sont des médias qui proposent une information brute. La plus brute possible, avec le moins d'analyse possible. L'agence France Presse, qui est un média que vous ne consommez pas, puisque l'essentiel de la production de l'AFP est destiné aux journalistes professionnels. Il faut s'abonner à l'AFP pour avoir accès à leurs articles, et c'est un abonnement qui coûte très très cher. Voilà. Non, non, pas France Info, pas l'équipe, pas Brut, tout ça. Oubliez tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, il y a des médias comme ça qui tendent à l'objectivité parce qu'en fait, c'est vraiment leur nature, c'est de proposer une information la plus brute, la plus neutre possible pour qu'après, les médias puissent s'en emparer et quelque part faire de l'analyse. Voilà. Mais même si l'objectivité est un idéal vers lequel il faut tendre, ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas tenter d'être objectif. Je dis, l'objectivité en matière journalistique est un idéal vers lequel il faut tenter de tendre. Mais aucun média, même l'AFP dont je viens de parler, aucun média, même l'AFP, ne peut affirmer qu'il est objectif. Pourquoi ? Parce qu'un média, il est fait par des hommes et des femmes qui ont une histoire, ont une culture, une éducation, un parcours, des rencontres, des lectures, des valeurs. Et toute information qui va transiter par eux, hein, ils vont sur le terrain, ils collectent une info, etc. Elle passe par le filtre de tout ça. Donc, même en tentant ce journaliste, cette journaliste, de tendre à l'objectivité, même si à un moment il va pouvoir même déclarer s'il le souhaite, voici une information que je vous rapporte en toute objectivité, en fait cette information elle est passée par eux et elle n'est plus objective, elle est subjective. Si le journaliste est français, ou soudanais, ou russe, ou américain, si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est né dans un milieu aisé, ou précaire, populaire, et ses lectures, etc., eh bien en fait l'information elle va passer par tous ces filtres, et sans que la personne s'en rende compte, eh bien elle va quelque part être orientée, de légèrement orientée à très orientée. Voilà. Donc, l'objectivité est un idéal vers lequel il faut tendre, mais toute information qui parvient vers vous, elle est quelque part subjective. Si vous informez auprès exclusivement auprès des médias russes, bah sur les mêmes actualités, vous n'aurez pas la même lecture que des médias français, par exemple, pour des raisons qui sont évidentes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas tellement à la notion d'objectivité. Voilà. Quel média est objectif, j'ai envie de vous répondre, aucun. Voilà. En revanche, donc aucun journal n'est objectif. Voilà, Rémi, tu m'as compris. Mais, en revanche, je crois à la rigueur et à l'honnêteté. Thomas, justement, je trouve ça problématique. Mais non, si tu m'écoutes, Thomas, il y a des journalistes qui sont rigoureux, qui sont honnêtes, qui, justement, tendent à faire cette objectivité en essayant de rapporter l'information la plus brute possible, en faisant fi de leurs propres opinions. Voilà. Donc il y a des journalistes qui font leur travail avec rigueur, avec honnêteté, et d'autres moins. Voilà, comme tout professionnel, il y a des bons et des moins bons. Et après, il y a aussi des journalistes, et là c'est un truc à part, il y a aussi des journalistes qui, ou des médias, merci beaucoup Toweli, merci Julien, qui assument leur subjectivité et qui ne la cache pas. C'est-à-dire que, un, il y a des journaux qui sont des journaux de gauche. Il y a les journaux Libération, c'est un journal de gauche. Et qui ne cache pas être de gauche, qui le clame, qui le proclame, qui l'affirme. L'Humanité est un journal de gauche. Le Figaro est un journal conservateur. L'Opinion est un journal libéral proche des entreprises. La Croix est un journal pétri de valeurs chrétiennes et catholiques. L'Humanité, j'en ai parlé, longtemps proche du Parti communiste, etc. Certains journaux ont des sensibilités plus ou moins affirmées. Mais ce que je veux dire, c'est que certains journaux et certains médias ont une subjectivité totalement affirmée et transparente. C'est-à-dire que si vous avez fait un minimum de recherche, bah vous savez que Libération est un journal de gauche et Le Figaro, pour faire simple, un journal plutôt de droite. Et ça, c'est de l'honnêteté. Hein ? Ce n'est pas de l'objectivité, mais c'est de l'honnêteté. C'est-à-dire que vous savez, en achetant Libération ou Le Figaro, que vous avez une grille de lecture des valeurs qui sont plutôt de gauche ou de droite. Et ça, c'est important. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Si tu es net, tu admets aujourd'hui que Le Figaro est extrême droite, qu'il faut arrêter de le lire. Tu ne lis pas Le Figaro 973. 973 écrit, si tu es net, tu admets aujourd'hui que Le Figaro c'est d'extrême droite et qu'il faut arrêter de le lire, tu ne lis pas Le Figaro. Je sais que tu ne lis pas Le Figaro. Tu ne lis pas Le Figaro comme moi je lis Le Figaro tous les jours, de la première à la dernière page. Pour écrire ça, c'est que non seulement tu ne connais pas Le Figaro, mais tu ne lis même pas Le Figaro. Voilà. Donc je viens de répondre à ta question. Concernant l'ESJ, j'ai vu passer des petits papiers. Alors là aussi, ça vous affole, parce que vous avez vu des petits papiers comme quoi des milliardaires rachetaient cette école de journalisme. Alors ne vous affolez pas. L'ESJ n'est pas une des écoles les plus importantes en France. On parle de l'ESJ de Paris, et pas l'ESJ de Lille. C'est une école qui n'est pas reconnue par la profession, voilà, qui n'a pas été certifiée par la profession, qui n'est pas une des écoles les plus reconnues, les plus importantes en France. Donc bon, je ne dis pas que c'est pas... qu'il ne faut pas se pencher sur le fait qu'elle est rachetée effectivement par des milliardaires. C'est assez intéressant comme sujet. Et je pense que je vais me pencher dessus dans les prochains jours. Mais en vrai, c'est pas un truc si important que ça, quoi. Mais si vous voulez, on pourra en parler dans les prochains jours. Ouais, L'Humanité écrit par Jean Jaurès. Non, l'ESJ de Paris et l'ESJ de Lille n'ont aucun lien. C'est vraiment deux écoles qui n'ont rien à voir. Ouais. Alors, est-ce qu'on fait un petit sommaire de, parce que j'ai plein d'actu à vous lire. Sachant que dans 2 heures, j'ai un Teams pour préparer le Téléthon Gaming, émission qui sera en direct sur France 2 et sur ma chaîne Twitch. Et toi, le participant à Question pour un champion, tu as un bot là-dessus, Lork Macbeth, puisque c'est une question qu'on pose tous les jours, point d'exclamation, étoile. Point d'exclamation étoile au pluriel et tu as ta réponse. Vous êtes prêts pour le sommaire ? Voilà, ça y est, vous avez les réponses. C'est pas parce que ça me lasse de répondre à cette question, mais comme on me la pose quasiment tous les jours depuis 4 ans, j'ai fait un petit lien. Sommaire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, le sommaire, c'est en 5 minutes, l'essentiel de l'actu. Vous n'êtes pas obligé de rester 2 heures avec moi, vous avez l'essentiel. Ce sera où le Téléthon Gaming ? Ce sera à la K-Corp. Je ne l'ai jamais dit. Cette émission dont je vous parle, le Téléthon Gaming, c'est dans 15 jours, un vendredi soir assez tard à minuit, avec plein de streamers et de gamers mobilisés pour le Téléthon. Ce sera sur France 2 et sur ma chaîne, et ce sera en direct des arènes de la K-Corp. Voilà, je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai jamais dit, je vous le dis maintenant, ça va être plutôt pas mal. Ce sera en direct de là-bas. Alors, le sommaire, c'est parti. Hier, j'en parlais, et j'y reviens aujourd'hui parce que c'est important. Les 1000 jours de la guerre en Ukraine... La guerre en Ukraine dure depuis 1000 jours. L'hiver le plus long, cet hiver qui débute en Ukraine. Est-ce que l'année 2025 sera l'année de la paix ? Certains le souhaitent. Voilà. Paradoxalement, les deux camps le souhaitent, les Russes comme les Ukrainiens, mais évidemment, ils ne souhaitent pas du tout la même paix. Voilà. Il y a des changements, Trump qui arrive au pouvoir aux États-Unis... le chancelier allemand qui a appelé Poutine récemment, les États-Unis qui ont autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour taper le sol russe. Voilà. Où on en est sur le plan militaire Est-ce que 2025 sera l'année de la paix ? Dossier très intéressant dans Le Parisien. Hop, ça c'est un article que j'en double, je le supprime. Alors, ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'actualité en tant que telle, mais c'est un sujet qui est assez complexe, sur lequel je vois régulièrement voir passer des articles, mais qui évoquent un fait sans contextualiser le tout. J'ai une page entière dans l'Humanité ce matin sur cette question, est-ce que la Chine, un jour, va envahir Taïwan ? Alors, Taïwan, ça c'est un serpent de mer, c'est un truc dont on parle régulièrement. Et là, vous avez une double page, enfin une page, avec deux spécialistes des questions internationales. Merde, j'ai loupé le début du sommaire. Non, t'as rien loupé, j'en étais à 10 secondes. Deux spécialistes des questions internationales qui nous expliquent de façon assez pédagogue l'origine de cette question. Voilà. Et avec des éléments de réponse à cette question. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on parle de ça ? Non, ça fait pas 10 ans qu'on parle de ça. Depuis 1949, on parle de ça. Joss, voilà. Mais peut-être que tu n'es pas né, je pense. Voilà. Je lis le 1 aussi, Ben Swag, c'est un excellent journal. Ouais. On lira ça, vous allez apprendre plein de trucs, et moi aussi. Hier, je vous parlais des inquiétudes des agriculteurs français et... je ne comprends pas le titre de l'article. Pourquoi Taïwan du Nord envahirait Taïwan ? Je pense que tu confonds avec la Corée, Escolis. Je pense que tu confonds Taïwan et la Corée. Donc, l'inquiétude de la France et des agriculteurs français vis-à-vis du Mercosur. On a un édito du Monde qui nous résume de façon assez claire pourquoi la France ne veut pas de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine et pourquoi aussi la France risque de devoir s'incliner face à la volonté de ses autres partenaires européens. Édito dans Le Monde qui est très bien fait. Je n'ai pas que des mauvaises nouvelles, j'ai aussi une bonne nouvelle ce matin dans l'actualité dont je vous parlerai tout à l'heure, l'énergie solaire qui accélère dans le monde et pas qu'un peu. L'énergie solaire qui est en train de s'imposer comme vraiment la première énergie renouvelable. Et on a des chiffres extrêmement intéressants. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, vous verrez. Taïwan, Chine, même chose. J'espère que tu trolles Zenlet. En tout cas, dis pas ça à un Taïwanais, ça risque de mal se passer. J'ai hésité à vous lire cet article. Ce dossier dans Libération, je vous le lirai tout à l'heure, pourtant en prenant le temps, parce qu'il est extrêmement fort et émouvant. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà parlé de ce procès Pellicot, hein, le procès du mari de cette femme, Gisèle Pellicot, hein, qui l'a livrée à 51 hommes qui sont venus la violer alors qu'elle était sédatée, endormie profondément par son mari à son domicile. Je pense que vous connaissez cette histoire, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi vous en reparlez ? Parce qu'on arrive à la fin de ce procès, voilà. Et aussi parce que ce ex-mari, tu as raison, ex-mari. Et parce qu'en fait, ce papier est magnifique. Parce que Gisèle Pellicot a pris cette décision. J'ai lu le CAPA, mais en fait, c'était pas très, très... c'était pas ouais. T'as trouvé ça intéressant cette lettre comme intervention ? J'avais vu le CAPA, ouais. Parce qu'en fait, cette femme, elle a pris une décision très forte. Elle a décidé que ce procès ne serait pas à huis clos et donc que tout le monde pouvait voir ce procès et que tout le monde pouvait voir même les images des viols projetés à l'audience. Elle a pris cette décision incroyable. Voilà. Pourquoi ? Pour faire passer un message, notamment auprès des autres femmes. Voilà. Et elle est devenue, malgré elle, une héroïne des libérations, et Libé a raison, voilà, un symbole, une icône féministe, voilà, sans le souhaiter, sans le vouloir. Cette femme est extraordinairement forte. Libération lui rend hommage ce matin. Voilà. Pollux, j'espère que là, tu devrais mettre... Putain, les messages, je ne veux pas les commenter. Je ne veux pas commenter ton message, Pollux. Non, sinon, je vais m'énerver. Donc, on lira ce papier qui est extrêmement fort, extrêmement touchant. Voilà. Voilà, la honte ne doit pas être que sur les victimes. À l'Erwan, je préfère ce genre de message que celui de Pollux, que vous lirez vous-même dans le chat. Je vous laisse vous en occuper, je ne peux pas répondre à ce message-là. Alors, hier, on parlait de la tension sociale en France qui est assez forte en ce moment, avec notamment des mouvements à venir à la SNCF. Et ce que je regrettais, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles nous expliquant les pourquoi de la colère des cheminots. Il y a un article dans Le Monde qui le fait très bien, hein, sur la balkanisation de la SNCF, la multiplication de filiales avec des cheminots de plus en plus nombreux qui sortent de la SNCF en fait et perdent leur statut. On verra ça ensemble. On va dire au revoir à un grand homme, un grand sportif, Nadal. Hein ? Merci Sarah. Nadal, dont c'est peut-être le dernier tournoi. Voilà, c'est un quart de finale de Coupe Davis Pays-Bas Espagne et donc il est sur la fin, voilà, et c'est il y a un très bel article de et une une également de l'équipe qui lui rend hommage ce matin, voilà. Un peu de sport. Alors ça c'est une histoire, je vous en dis pas plus parce que je veux pas la dévoiler, mais c'est une histoire d'IA. Les Britanniques ont créé une grand-mère en IA pour piéger les arnaqueurs, hein, les brouteurs, vous savez, les démarcheurs téléphoniques. C'est très très drôle, je vous lirai ça. Et puis on finira avec un très bel article du Parisien, une pleine page sur la dernière version de Flight Simulator qui sort a priori aujourd'hui, voilà, et qui est incroyable de réalisme. Voilà, et l'article nous dit vraiment que cette dernière version de ce qui est plus qu'un jeu d'ailleurs, hein, c'est un simulateur de vol, est juste incroyable, pour le coup, les progrès par rapport à l'édition précédente. Et j'ai un copain qui bosse dans les studios à Bordeaux. Effectivement, il y a des Français. C'est pas que des Français, mais il y a des Français qui sont derrière ce succès. Ouais. C'est à 17h ? Ok. Pas de nouvelles du Vendée Globe ? Non, Urtien. Je suis un homme avec mes failles, avec mes limites, avec mes faiblesses. Je ne m'intéresse pas trop à la voile. Voilà. Je suis un Breton qui navigue pas. C'est Jean Massé qui va être content, bien sûr. Et en fait, voilà, j'ai du mal à m'intéresser à la voile. Je lis des articles sur la voile, ça ne me hype pas trop. Voilà. Donc, j'ai mes limites. Voilà. Je préfère lire des articles sur les jeux vidéo. Donc, en revanche, il y a des articles un petit peu. Bon, pas ce matin, il n'y a pas grand-chose ce matin d'ailleurs. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez des sources d'informations qui en parlent très bien, mieux que moi. Je pense que si je vous parlais du Vendée Globe, ce ne serait pas forcément très intéressant. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà, chacun s'est fait le best, mais je comprends. Voilà, je ne suis pas parfait, je suis même pétri de défauts. Mais pour le coup, je ne m'intéresse pas trop à la voile. Voilà. Voilà. Donc je sais pas, je saurais même pas vous dire pourquoi, parce qu'en vrai je trouve ça potentiellement fascinant, enfin, ces aventures humaines qui sont très très fortes, mais potentiellement fascinant, mais qui ne me fascinent pas moi, je saurais pas vous dire pourquoi d'ailleurs. Merci Maïko. Ouais. Salut Zidra. Tu as une bonne patte pour être pétri ? Oui, très. Je suis bonne patte par contre. Il manquerait plus que Samuel sache nager. Ah bah je suis triathlète quand même, The Voyageur, donc j'ai un peu nagé quand même. Voilà. Mais ça me saoule. Et pourtant, j'ai le sommeil d'un navigateur. Ouais, je sais, PLT, mais pour le son, ouais, j'ai un peu la flemme. Est-ce qu'on est prêt pour la revue de presse ? On y va ? Commence avec l'Ukraine ? Ouais, je faisais du surf aussi à l'époque. Merci, Lulu the Nurse. Let's go. C'est parti. Merci beaucoup Nuno. Merci Nuno pour le 24e mois. Allez, on y va, c'est parti. L'Ukraine. Merci PLT. Bon, en fait, t'as raison, hein, je sais qu'il y a un sujet là-dessus. J'ai pas ce problème avec mon autre micro d'ailleurs, mais il faudrait que je travaille sur la pièce ou je règle un petit peu, je fais un peu de mal, mais je sais que tu as raison. Est-ce que Camille Etienne a un lien de parenté avec Samuel Etienne ? J'aimerais, parce que j'ai beaucoup de respect pour cette militante écologiste, mais non, même si je l'ai reçue à plusieurs reprises déjà. Guerre en Ukraine, c'est devenu parisien, l'hiver le plus long. C'est parti pour la revue de presse après une intro de 58 minutes. On est bien. 1000 jours. Après son agression, le pays fait face au retour du froid et à un regain de l'offensive russe. Il s'inquiète du soutien occidental. Les prochains mois seront redoutables et décisifs. Édito de Jean-Baptiste Isaac. L'édito, c'est un article un peu particulier où le journaliste donne son avis. Voilà, éditorial, c'est une façon de vous dire, attention, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas être d'accord avec ce journaliste. Que dit Jean-Baptiste Isaac ce matin ? Héroïque. 1000
jours de guerre en Ukraine. 1000 jours de drame, de civils tués par l'agresseur russe. Ce week-end encore, preuve du cynisme de Vladimir Poutine, le réseau énergétique ukrainien a une nouvelle fois été visé pour briser la résilience de la population avant l'hiver. Sur les 1500 km de front, les pertes sont effroyables. Certaines sources affirment que plus de 1 million de combattants seraient morts ou blessés depuis février 2022. Dans la boue, sous la pluie et la neige, la réalité crasse d'un conflit parfois oublié. Une sanglante guerre de position comme à Verdun en 1917 avec des drones meurtriers scrutant les tranchées. Les Russes paient le plus lourd tribut humain dans cette boucherie voulue par le maître du Kremlin, avec des pertes estimées à 600 000 hommes, accélérées en 2024 avec l'offensive dans le Donbass, un grignotage territorial au très lourd coût humain. Mais l'ex-officier du KGB reste inflexible. Ne comprenant que le rapport de force, il menace, dénonce toute escalade, alors que de nombreuses lignes rouges ont été franchies par les Occidentaux depuis 3 ans, avec la livraison de chars et d'avions de chasse. Hein, Poutine a beaucoup menacé, mais finalement, il n'est jamais pris aux Occidentaux. Des troupes ukrainiennes occupent même une infime partie de son territoire, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Trump avait pourtant dit qu'il arrêterait la guerre dans les 24 heures après son élection. Tsuka, quand il sera au pouvoir, mon chouchou, je ne suis pas trumpiste, mais il arrive en fonction en janvier prochain. Donc là, tu as un petit peu d'avance. Aujourd'hui, c'est Biden, le président américain. Preuve que le seul moyen de tenir tête aux dictateurs est de continuer d'aider résolument l'Ukraine exsangue à se défendre pour que le pays, et ça c'est important, arrive dans quelques mois à une éventuelle table de négociation dans une moins mauvaise posture, lui qui résiste héroïquement depuis déjà 1000 jours, puisque rappelons pour ceux qui ne l'ont pas encore compris que dans cette histoire, même si il y a des choses, c'est une guerre forcément horrible de part et d'autre, il y a un pays agressé et un pays agresseur. Je pense que c'est le point de départ de tout échange sur l'Ukraine. Pour les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, bon ben, c'est que vous avez été mal informé. Lisons cet article. Après de 8000 km de là, Donald Trump, quelqu'un en parlait à l'instant, doit regagner la Maison-Blanche le 20 janvier. Ce n'est donc pas le président américain, Trump, actuellement. Hein? Le chantre de l'Amérique d'abord s'est vanté lors de sa campagne de régler le conflit en moins de 24 heures après sa prise de pouvoir. On verra bien ce qui se passera quand il arrivera au pouvoir. La Russie contrôle actuellement près de 20% du territoire ukrainien, vous avez une carte là. Décréter un cessez-le-feu figerait vraisemblablement cette situation. Cela ne dérangerait pas plus que ça le futur président américain, soucieux aujourd'hui d'arrêter les frais. Et aussi la note pour les États-Unis, parce que tout cela a un coût. Le milliardaire n'a jamais rompu le contact avec Vladimir Poutine, dont il est prompt à embrasser les vues. Ça, c'est une info. On sait que même ces 4 dernières années, quand il n'était plus président, Trump a régulièrement appelé Poutine. Signe des temps qui changent, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé vendredi Poutine, une première depuis 2 ans. Est-ce à dire que les pays occidentaux se lassent de ce soutien à l'Ukraine et aimeraient qu'une paix arrive? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui reproche d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Mais l'idée d'une victoire de Kiev, un temps espéré, a vécu. Aujourd'hui, même si les soutiens de l'Ukraine en ont rêvé, aujourd'hui, il semble impossible que l'Ukraine arrive à chasser, en l'état actuel des forces, les Russes hors de leur pays. En tout cas, des territoires occupés. Les stratèges des deux camps... Ah, on trouve encore des gens pour défendre la Russie dans cette guerre, c'est intéressant, dans le chat. Je pense que vous pouvez les lire en même temps que moi. Moi, j'en ai trop parlé depuis... Depuis 1000 jours pour perdre du temps là-dessus. Les stratèges des deux camps se penchent désormais sur leurs cartes. La moindre parcelle grignotée contre la fameuse table des négociations dont je vous parlais, Moscou jette donc toutes ses forces dans l'arène, quitte à perdre près de 10 000 hommes chaque semaine. En octobre, son armée a pris 478 km² de territoire ukrainien. C'est son plus gros gain territorial depuis mars 2022. La mer des batailles se joue actuellement sans doute à Koursk. L'Ukraine a mené sur ce bout de territoire russe une incursion en août. Elle s'accroche depuis à ses 600 km². Ce week-end, vous le savez peut-être, Washington a autorisé Kiev à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée pour l'aider à conserver cet avantage dans la région de Koursk. Un virage dans la doctrine américaine, c'est une grande première. Toujours dans la même zone, les régiments russes comptent sur une dizaine de milliers de soldats nord-coréens, hein, vous le savez, arrivés en renfort ces derniers jours. La pression s'accentue. Koursk est l'un des derniers atouts dans la Manche des Ukrainiens en vue de futures discussions, constate un analyste géopolitique qui s'appelle Ulrich Buna. Mais à quel prix voudront-ils le conserver? Parce que forcément, ça implique des pertes en soldats. Un déluge de feu s'est abattu par ailleurs ce week-end sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Au printemps déjà, ça n'est pas nouveau. La Russie avait méthodiquement détruit des barrages hydrauliques et des centrales thermiques. Les experts s'attendent à des coupures de courant de plusieurs heures par jour ces derniers mois, sans eau chaude ni chauffage. Il faut imaginer, même si on l'oublie un petit peu, le quotidien extrêmement difficile des civils russes, des hommes, des femmes et des enfants. Je vais à la fin de l'article. Ces conditions poussent d'ailleurs de nombreux civils ukrainiens à fuir le pays, ce qu'on peut comprendre. Ces routes et ces trottoirs verglacés, l'armée manque d'hommes, le moral, lui, décline à mesure que le thermomètre plonge. Voilà. Allez, je vous lis sur l'Ukraine, après ce dossier du Parisien que je trouve très bien fait, que je vous invite à lire si vous voulez en savoir plus. Démon Targaryen, Washington égale Biden avant de partir. Oui, bien vu, le président américain s'appelle Joe Biden. Félicitations. Les modos, vous avez loupé Deus Worms? Bon, bah moi je le loupe pas, hop, avec son petit drapeau français là. Joli pépé, mon ami. C'est marrant, vous l'avez raté celui-là. Tu l'avais ban? Non, tu l'avais mis un Théo, Moulbit, t'as ripé. Tu l'avais mis 600 secondes. Bonjour Samuel, après l'arrivée de Nord-Coréens, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un pays aider l'Ukraine avec l'envoi de soldats également? Il n'en est pas question officiellement en tout cas. Bonne question Armlex en tout cas. Qu'est-ce qu'il avait dit la personne que je viens de bannir? Que je devais quitter Twitch. Voilà. Alors ce chat est ouvert à tous, à toutes les sensibilités. Voilà. Mais d'abord aux gens doués d'une intelligence, voilà, enfin aux organismes doués d'une intelligence, même minimale, c'est une des conditions sine qua non. Et puis venir sur le chat d'un streamer pour dire qu'il doit quitter Twitch, bon, je pense qu'on est dans une démarche de provocation qui ne nous intéresse pas, en tout cas quand on est en train de parler d'un sujet aussi intéressant que la guerre en Ukraine. Peut-être que d'ailleurs cette personne était un peu pro-russe, qui aurait pu expliquer, à supposer une forme d'intelligence, cette colère. Donc ça dégage. Comme le dit Yofarawa avec beaucoup d'humour, dommage, il ne savait pas qu'il n'était pas obligé d'ouvrir le stream et de regarder. Exactement. Ouais. Il y a quand même des gens qui s'infligent de regarder des chaînes Twitch dont ils ne valident pas le contenu. Vous imaginez la vacuité et le vide de la vie d'une personne qui a tellement peu de choses à faire dans sa vie qu'elle s'oblige à regarder des choses qui, quelque part, la maltraitent. Quoi. Merci Cuisto, merci Allo and the Gang, merci Nuno, merci Lulu the Nurse, vous êtes formidable. Merci beaucoup, Fakrim. Voilà, ils aiment souffrir. Il se passerait quoi concrètement si la Russie gagnait? En fait, les termes de la question ne se posent pas tout à fait comme ça, Kim Pakuno. Aujourd'hui, aucun des deux camps n'a gagné. Rappelons que Poutine avait annoncé qu'il allait envahir l'Ukraine en quelques heures. Voilà. Bon, il a échoué face à une résistance ukrainienne qui était totalement inattendue, face aussi à une mobilisation des pays occidentaux que Poutine n'avait sans doute pas envisagé. Voilà. Donc, pour Poutine, c'est une défaite. C'est aussi une défaite pour l'Ukraine, puisque même si certains ont espéré que la contre-offensive ukrainienne allait repousser les Russes hors de l'Ukraine, avec l'aide des Occidentaux, l'Ukraine n'a pas réussi à le faire. Donc, c'est aussi une défaite pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, vous avez une partie du pays qui est ici en rouge, là. Le Parisien parle de 20% de l'Ukraine qui est sous contrôle russe. On ne peut pas parler d'une victoire ukrainienne. Donc, ce qui peut se passer, dans les prochains mois, au mieux, ce sont des négociations de paix, mais ça ne veut rien dire, la paix. Hein? Quelle paix? Évidemment, la paix souhaitée par Poutine n'est pas la paix souhaitée par les Ukrainiens, bien sûr. Donc, c'est ça qui va se passer dans les prochains mois. T'inquiète, Linoué, je suis habitué. Mmh. Je préfère obliger le chat à lire mes conneries. On aime bien tes conneries, Alewan. Ouais. Combien de temps ça peut durer? Ça peut durer des années, ça peut durer des décennies, comme ça peut s'arrêter dans 2 mois. Je n'ai pas la réponse à cette question, bébé Kali. Poutine pourra-t-il vraiment se permettre d'utiliser l'arme nucléaire? Si tu demandes mon avis, Julio, je vais te répondre non, mais je ne suis pas dans la tête de Poutine. Après, au cours de ce conflit, qui dure depuis 1000 jours, Poutine a agité la menace nucléaire à plusieurs reprises, devant la mobilisation croissante des Occidentaux, avec les chars, les missiles, etc. Et une nouvelle fois, sans doute, ici, avec l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée, et il ne l'a jamais fait. Donc, on peut penser que ce sont juste des mots, quoi. C'est intéressant ce débat sur l'Ukraine, en tout cas. Merci à vous. Pourquoi la Russie veut l'Ukraine? Des ressources alimentaires? Parce qu'effectivement, c'est un pays plutôt, plutôt riche et potentiellement économiquement intéressant. Bah, en tout cas, mais surtout parce que Poutine estime, ou parce qu'il en est convaincu, ou parce qu'il pense que c'est une posture qui peut plaire à son peuple électoralement parlant, enfin, quoique la liberté de vote en Russie est quelque chose d'assez subjectif, que l'Ukraine fait partie de la Russie. Ouais, que historiquement, l'Ukraine n'aurait jamais dû avoir son indépendance et que si on se réfère à une certaine partie de l'histoire russe, eh bien, l'Ukraine, c'est la Russie. Ça, c'est l'avis de Poutine. Et donc, il dit, puisque c'est à moi, puisque c'est russe, eh bien, je vais envahir ce pays. Et lui, il ne dit pas envahir, il dit libérer ce pays. Bon, ça, c'est la vision de Poutine, bien sûr, qui n'est pas la vision des Ukrainiens aujourd'hui. La preuve, c'est qu'ils se battent. La meilleure réponse de l'affirmation de Poutine que l'Ukraine et la Russie, c'est la résistance des Ukrainiens. Si les Ukrainiens pensaient que Poutine avait raison et que l'Ukraine est russe par son histoire, par sa culture, eh bien en fait, ils ne seraient pas battus. Mais des gens qui sont prêts à mourir pour défendre leur pays, c'est que ce pays mérite son indépendance. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais ça me semble assez évident, quoi. D'ailleurs, Poutine avait annoncé que... C'est pour ça que Poutine avait annoncé pouvoir envahir l'Ukraine en 24 heures. C'est parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de guerre, en fait. Hein, qu'on allait célébrer l'arrivée des troupes russes, des troupes de libération, quoi. Vous voyez bien que c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Hein ? Bon, c'est intéressant parce que vous continuez à manifester un intérêt pour cette guerre alors qu'elle dure depuis 1000 jours. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne s'est pas habitué à ce conflit. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que parfois, une actualité dure, du coup, on s'en désintéresse. Et je vois qu'on continue à débattre dans le chat de cette information. Bah, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous vous intéressez à ça, quoi. Parlons de Taïwan. Sujet complexe, sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Et je suis content parce que dans l'Humanité, il y a une page entière avec deux chercheurs, deux spécialistes des questions internationales, qui nous expliquent un petit peu ce qu'est cet autre point de tension dans le globe qui est la question de savoir si un jour la Chine va envahir Taïwan. Les incidents se multiplient depuis plusieurs années. Le sujet, en fait, il existe depuis 1949, nourrissant les questionnements sur un changement stratégique de la Chine qui, jusqu'à présent, affirme privilégier la voie pacifique pour parvenir à la réunification. Mais est-ce qu'un jour, on va se réveiller un matin en apprenant que la Chine a envahi Taïwan, comme on s'est réveillé un matin en apprenant que la Russie envahissait l'Ukraine? Ben ça, c'est la question qui est posée par cet article. Lisons ces deux interviews que je trouve très intéressantes. D'abord d'Alexandre Gandil, qui est un spécialiste des questions politiques et qui est un chercheur associé au Centre de recherche internationale de Sciences Po et qui, je trouve, nous explique tout ça de façon extrêmement claire. Lisons. Les exercices militaires chinois du 14 octobre, simulant un blocus de l'île de Taïwan, ont à nouveau focalisé l'attention du monde sur la région. Pour la quatrième fois depuis août 2022, les forces chinoises de l'armée populaire de libération, l'APL, donc c'est l'armée chinoise, se sont livrées à une glaçante démonstration de puissance, alimentant la crainte d'un conflit ouvert à travers le détroit de Taïwan. Une guerre dans cette région du globe, quoi. Cette crainte n'est pas récente. Elle existe depuis la proclamation, et là on va comprendre la genèse de ce conflit. Ça, c'est génial. Cette crainte n'est pas récente, elle existe depuis la proclamation de la République populaire de Chine, donc de la Chine telle que vous la connaissez, en 1949. Dans la foulée, le régime de la République de Chine, hein, chassé du continent par les communistes à l'issue de la guerre civile, puisqu'il y a eu une guerre civile en Chine entre ce qu'on a appelé les nationalistes et les communistes, les uns voulant une Chine communiste, les autres une autre Chine. Ces Chinois-là, c'est dit qu'on appelait les nationalistes, ont été chassés de Chine et se sont repliés sur l'île de Taïwan. Chiang Kai-shek, exactement, Hamzou, je vois que tu connais ton histoire. Mao d'un côté, Chiang Kai-shek de l'autre. Donc ils sont réfugiés à Taïwan. Et là, on commence à comprendre le début de l'histoire. Nobito, Kyuhisto, merci à tous les deux. Or, pour l'autorité de Pékin, Taïwan fait partie de la nation chinoise, hein, laquelle ne peut être légitimement représentée que par la République populaire. Dans les années 50, c'est ce raisonnement qui avait présidé à l'éclatement des deux premières crises du détroit de Taïwan, lors desquelles avait plané le spectre d'une guerre nucléaire. Voilà. Si depuis le début des années 80, les autorités communistes favorisent une réunification pacifique, elles n'ont jamais renoncé à l'usage de la force. Ainsi, elles qualifient Taïwan de sécessionniste, hein, une partie du pays qui aurait fait sécession, et menace de sanctions toute action présentant la République de Chine, donc Taïwan, comme un État indépendant et souverain. C'est pourquoi en 1995-96, l'APL, donc c'est l'armée chinoise, hein, c'est l'armée populaire de libération, a lancé des missiles autour de l'île en vue de la première élection au suffrage universel direct du président taïwanais, qui avait été considérée comme une provocation par Pékin. C'est également pourquoi en 2005, l'Assemblée nationale populaire chinoise a adopté une loi dite anti-sécession. Légalisant le recours à la force si toutes les possibilités d'une réunification pacifique avec Taïwan sont considérées comme épuisées. Je résume, c'est tendu. Mais la récurrence des crises ne saurait ausculter le tournant à la fin des années 2010. Que s'est-il passé? Une pression militaire à la fois continue et croissante. Depuis quelques années, les patrouilles aériennes et navales de l'armée chinoise se sont multipliées, certaines franchissant même la ligne médiane du détroit, frontière non officielle autrefois respecté par Paris, oui, je serai à la flèche samedi, l'Urbex, et se rapproche toujours plus de l'île. J'ai fait plein de tweets déjà sur le sujet. Je parle du salon de la flèche et de story. À cela s'ajoutent d'autres activités de déstabilisation et d'affaiblissement conduites par la Chine, rupture de câbles sous-marins, dragage de sable, survol par des drones, incursion de bateaux hors-bord, etc. Puisque une opération amphibie de débarquement serait coûteuse et risquée, hein, une guerre quoi, Pékin pourrait plutôt tenter de faire plier Taipei, Taïwan, sans avoir à faire la guerre. Voilà. Donc, par des pressions diplomatiques, économiques. Voilà. Lisons maintenant Barthélémy Courmont, qui est un autre chercheur, professeur à Lille et directeur de recherche à l'IRIS, et qui se pose la question de la faisabilité de la guerre. Hein? La question de la faisabilité renvoie au déséquilibre capacitaire. Désormais nettement à l'avantage de Pékin, bon, je traduis, l'armée chinoise est bien plus puissante que l'armée de Taïwan, même si elle est ultra moderne, mais aussi à la temporalité. Dès lors, pourrait-on se demander quand la Chine va-t-elle envahir Taïwan, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Lulurbex? Je t'ai répondu, Lulurbex, putain. Bah oui, mais il faut écouter, mon chouchou. Il y a Lulurbex qui me harcèle sur le salon du jeu vidéo de la flèche, là. Je lui ai répondu, tout le monde a entendu, mais pas lui. Bah, c'est dans le replay, je suis désolé. Sinon, tu vas sur mes réseaux sociaux, tu vas sur ma page Instagram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, j'ai fait 15 000 tweets, je peux pas faire plus, les chouchous. Là, on parle de Taïwan, putain, j'adore le jeu vidéo, mais concentrez-vous un petit peu là, sinon on va pas y arriver, quoi. Oh, bordel. Alors, donc ce chercheur, pardon d'être interrompu, mais bordel. Ce chercheur se pose la question de savoir si Pékin va déclarer la guerre à Taïwan et éventuellement si la réponse est quand. Et dit, c'est un peu plus compliqué que ça. Cela ne signifie pas qu'un passage à l'acte est inéluctable et les moyens de pression de Pékin sont beaucoup plus importants dans d'autres domaines comme la diplomatie, l'économie. Il se fout de ma gueule, l'Urbex. Putain, mais c'est... Les gars, c'est quoi l'intérêt de troller? On est en train de se poser la question d'une éventuelle guerre entre Taïwan et la Chine et t'as un gars qui multiplie les questions sur qu'est-ce que je fous samedi prochain? Mais c'est quoi ce niveau de troll? Mais putain, mais faites quelque chose de votre vie, les gars! Mais faites quelque chose de votre vie, putain! La prochaine fois, c'est Bandef, hein! Mais putain, mais l'humanité va disparaître, c'est pas possible! Hein? Pas possible, ça! Mais on va tous mourir, les gars! Hein, on va se faire remplacer par des fourmis ou des cafards, je sais pas, c'est pas possible, hein! Vu le niveau, quoi! Merci Malaco. Mais j'en peux plus, moi. Merci Big Alex. On va être remplacé par l'IA ou par des machines, je sais pas, mais quand tu vois ça... Hein? Putain, incroyable ça. On est en train de parler de guerre, quand même. Ça. Ou pire, par des cons, ouais. Ça, c'est peut-être ce qui va se passer. Ouais. Bon. Même si le soutien de Washington est important, parce que vous savez que les États-Unis notamment soutiennent très fortement Taïwan, les Taïwanais savent que face à la Chine, ils doivent avant tout compter sur eux-mêmes. Si offensive il y aurait, ce serait une offensive très rapide, hein, éclair. Le jour où l'offensive sera déclenchée, ça fait flipper, hein, il sera trop tard pour y apporter une réponse. Aussi cherche-t-il une autre voie basée sur la dissuasion et invite Pékin à reconsidérer ses ambitions en analysant les conséquences funestes d'une telle guerre dont le régime chinois pourrait faire les frais. C'est vachement intéressant. Ce que dit ce chercheur, c'est que Taïwan essaie d'envoyer le message, envoie le message à la Chine, que Taïwan, militairement, ce n'est pas des oiseaux. Ils sont vraiment préparés à cette attaque, à cette invasion. Si demain, Pékin, l'armée chinoise, cesse d'envahir Taïwan, le coût humain, militaire humain pour la Chine serait sans doute très lourd. Voilà. Est-ce que Pékin est prêt à payer ce prix? Voilà. Qui potentiellement pourrait faire du mal au régime chinois dans sa stabilité, qui est un régime qui n'est pas très démocratique, vous le savez, bah c'est toute la question. Voilà. Alors Grégorio, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ta question. C'est quoi l'intérêt de la Chine d'envahir Taïwan? Bah, c'est un peu comme Poutine. Pékin estime que Taïwan, c'est la Chine. Comme Poutine considère que l'Ukraine, c'est la Russie. Il y a déjà ça. Pour les ressources, oui, je crois que oui. Taïwan, ce n'est pas un petit peu les leaders... De la production de semi-conducteurs, un truc comme ça, non? C'est pas les numéros 1 mondiaux, des processeurs, les puces, voilà, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. Il y a peut-être une histoire comme ça aussi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça, l'invasion, imaginez, c'est peut-être pour ça que les États-Unis, notamment, soutiennent Taïwan. Imaginez Pékin prendre le contrôle de Taïwan et donc de quasiment. Le monopole de la production de processeurs au monde, en tout cas large numéro 1, vous imaginez les conséquences économico-diplomatiques de ça, quoi. Dans cette guerre commerciale que se livrent les trois géants que sont la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, quoi. Et ouais. Nvidia s'effondre, AirSoled, en bourse ? Ouais, ils sont montés très haut aussi. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Bon, bah, merci à l'humanité. Vous voyez, vous êtes nombreux à me demander, mais Samuel, quel journal tu nous conseilles au quotidien? Bah, je vous dis, ils sont tous intéressants. Là, on a une page dans l'humanité sur la question taïwanaise. J'ai rarement vu un article aussi clair sur le sujet, quoi. Voilà. De la même manière, on a un article dans Le Monde qui nous parle du Mercosur. Alors le Mercosur, c'est cet accord qui est débattu depuis plus de 20 ans, je crois, entre plusieurs pays d'Amérique latine et l'Union européenne, un accord commercial, voilà, et s'effondre, moins 1,5%. Ah ouais, donc que dalle, ouais. Non, s'effondrer, c'est perdre 10 ou 20%. Ouais. Non, donc c'était une fausse info. Un accord de libre-échange entre plusieurs pays d'Amérique latine et l'Union européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France ne veut pas de cet accord. Et l'autre problème, c'est que la France va devoir sans doute s'incliner parce que ses partenaires européens en veulent plutôt. Et Le Monde nous résume ça très bien. Lou Patronum. Ah, je pense qu'il voulait dire si la Chine envahit Taïwan, Nvidia s'effondre. Peut-être qu'il devrait l'écrire alors. Mais il faut l'écrire. Ah, c'est ça que tu voulais écrire. Bah oui, mais écris-le dans ce cas-là. Si vous voulez dire quelque chose, écrivez-le, sinon on n'y arrive pas. On n'est pas dans votre tête. Mercosur, édito du Monde, qui a le mérite de bien nous résumer le truc. la conclusion imminente de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur que sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie provoque des tensions, vous le savez. Ils sont au courant, les agriculteurs, que le gouvernement ne veut pas de cet accord ? Je n'ai pas l'impression. Si, si, ils sont au courant. Ce traité négocié depuis près de 25 ans constitue une source d'occasion favorable, dit Le Monde, pour l'industrie européenne, pour les produits laitiers, pour les alcools, en sécurisant des indications géographiques protégées sur de nombreux produits alimentaires. En revanche, pour les éleveurs de bovins, pour les éleveurs de volailles, pour les céréaliers, l'accord de libre-échange serait un repoussoir qui fragiliserait des filières déjà mal en point. Outre une augmentation des quotas d'exportation, ce secteur dénonce le risque d'être livré à une concurrence déloyale, hein, avec des normes différentes, qui peut accélérer le déclin de l'agriculture française, en tout cas d'une partie de l'agriculture française. Les raisons de critiquer cet accord ne manquent pas, dit Le Monde. ...99% des messages que je lis dans ce chat sont vraiment passionnants. Et parfois, il y a des dingueries qui arrivent. Je pense que vous en avez vu une, là, mais je pense que les modos se sont occupés. Oh, c'est fou, quoi. C'est atterrant. On dirait du RP. Mais pas du RP sur GTA, du RP sur l'actualité. Oh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Les raisons de critiquer cet accord ne manque pas. Dans une tribune publiée dans Le Monde, 600 parlementaires soulignent son incompatibilité avec l'accord de Paris sur le climat de 2015, notamment en matière de déforestation, pas terrible. Faute de contrôle adéquat sur les produits importés, il expose l'agriculture française à une concurrence dont les modes de production sont beaucoup moins exigeants sur le plan réglementaire, hein, que ce soit pour l'usage des pesticides ou des hormones, et le respect du bien-être animal. Donc vous voyez que les gens qui s'opposent à cet accord, quelque part... c'est pertinent, c'est pas terminé. Surtout, l'accord met en évidence les écarts de compétitivité difficilement surmontables par un modèle français caractérisé par des petites exploitations agricoles et certains géants en Amérique latine. Les parlementaires alertent enfin sur la remise en cause de la sécurité de nos approvisionnements agricoles, bien sûr. Alors que la classe politique française est plus divisée que jamais, le refus de l'accord sur le Mercosur fait l'objet d'un consensus inhabituel de l'Assemblée nationale au gouvernement passant par le président de la République. En France, tout le monde est contre cet accord, enfin la plupart des décideurs en tout cas. Sous la pression d'une colère agricole qui ne parvient plus à s'apaiser, chacun clame haut et fort que ce traité n'est pas acceptable en l'état, mais, ça c'est le mec très important, cette unanimité trouve peu d'écho sur le plan européen, où la France peine à rallier à sa cause la minorité de blocage qui permettrait de surseoir au texte, de repousser ce texte. La plupart des États membres pensent au contraire qu'il serait dangereux de renoncer à cet accord au moment où, après l'élection de Trump, la tentation protectionniste s'empare des États-Unis, tandis que la Chine est prête à profiter des atermoiements des 27 pour renforcer ses positions en Amérique du Sud. L'Europe, qui cherche à s'affirmer comme puissance dans un monde qui lui est de plus en plus hostile, a-t-elle les moyens de se priver de nouveaux débouchés commerciaux ? Parce que tout le monde est d'accord pour dire que globalement, ce truc n'est pas top pour l'agriculture française. Hein, voilà. Mais en revanche, sur d'autres secteurs d'activité, industrie par exemple, ce traité pourrait être bénéfique, y compris à l'économie française. Et puis chez certains voisins européens qui sont des puissances agricoles moins importantes que nous, c'est encore plus évident. Fragilisée par un modèle agricole à bout de souffle, tétanisée par la perspective d'une crise sociale au pire moment, la France n'a guère les moyens de peser sur le débat. Si Bruxelles décidait de passer outre l'avis de Paris, cela acterait un recul inédit du poids de la France en Europe. Ça, c'est pas rien, ça. Plus grave encore, l'épisode risque de laisser une trace néfaste et durable dans l'opinion française en nourrissant un sentiment anti-UE. Ouais. C'est intéressant, hein. Ouais, donc ce truc du Mercosur, là, ça va bien au hein, ouais. Oui, mystérieuse l'argent, bien sûr, tu as raison. Non, c'est pas un vote européen à l'unanimité. Il faut une majorité qualifiée, RAF. Donc une minorité de blocage, mais il n'est pas sûr que la France arrive à obtenir assez de soutien d'autres pays européens pour atteindre cette minorité de blocage. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Mais c'est pas une question conne, only one Nico. Il n'y a pas de question conne, il n'y a que des réponses connes. Désolé de la question, mais la France étant un pays qui agriculturellement ne manque de rien ou presque, pourquoi s'entête-t-elle à faire des affaires avec des pays dont les produits sont possiblement de qualité bien inférieure ? Parce que ce n'est pas la France qui achète de la farine ou des fruits ou que sais-je. Ce sont des acteurs économiques qui sont indépendants, qui font ce qu'ils veulent. Hein ? C'est pas l'État français qui achète du blé ou du maïs ou de l'huile, que sais-je. Ce sont on est dans une démocratie, dans un système libéral, où ce sont des acteurs économiques qui sont des entreprises, des groupes de distribution qui achètent et qui parfois préfèrent acheter moins cher, même si c'est ailleurs qu'en France, hein, pour vendre moins cher à leurs consommateurs qui... Que demande-t-il le consommateur en général ? Demande à remplir son caddie de façon moins onéreuse possible. Et donc, voilà, quelque part, le consommateur, il fait partie aussi de cette histoire. Voilà. Après, tout le monde ne peut pas... par exemple, on sait que les produits français sont parfois plus chers sur le plan alimentaire. On sait que les produits bio, on sait que les produits en circuit court sont parfois plus chers que, eh bien, un produit qui va être importé, produit massivement dans des conditions pas terribles. Voilà, mais il y a aussi des consommateurs français qui ne peuvent pas se permettre, au regard de leur pouvoir d'achat, d'acheter plus cher aussi. Hein. Je vous lis. Pas pour vendre moins cher, mais pour faire plus de marge, la nuance est là. C'est peut-être pas faux, Innovatodev. Après, vous savez que les grands groupes de la distribution en France ne sont pas en très grande forme. Hein, par ailleurs. Après, la signature du Mercosur ne veut pas dire que cela se mettra en place, car il y a encore le Parlement et la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, elle est 100% pour le Mercosur, qui rassoue, donc ça je te l'apprends. Et le Parlement européen, en fait, il est représenté par les députés européens. Et si une majorité de pays européens veut ce truc, je vois pas pourquoi ça n'irait pas au bout, quoi. Tu n'arrives pas tard, Opérateur Mac, j'ai commencé à trouver presque très tard moi-même. Tu n'es pas en retard, c'est moi qui suis en retard. Sauf l'Italie, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Il y a 27 pays. Hein. Mais c'est pas deux pays qui vont bloquer le truc, ou même trois, ou même quatre. Hein. On est 27. Hein. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, cet article dans Le Monde, cet édito, je trouve, résume très très bien le truc. Voilà. Ce que j'aime d'un article, c'est quand il essaye de rendre compréhensible un sujet compliqué. Je trouve que cet édito du Monde le fait plutôt bien, quoi. C'est pas faux, Juan José Angelo. C'est pas faux ce que tu dis. Ouais. Ouais. Une bonne nouvelle, enfin, certains, je l'ai vu dans le chat pendant le sommaire, trouvent que l'énergie solaire n'est pas une bonne réponse. Pour X raisons, voilà, c'est une fausse bonne réponse, donc peut-être que c'est pas une bonne nouvelle pour certains, mais bon, naïvement, je me suis dit, tiens, peut-être une bonne nouvelle dans l'actualité, c'est vous qui allez me dire si c'en est une ou pas, l'énergie solaire accélère dans le monde, page 26 dans le Figaro ce matin. Boehnest signe cet article et nous dit que l'expansion de l'énergie solaire est soutenu par des prix en baisse, soutenu par tiré par la Chine devant les États-Unis et le Japon. C'est pas la solution miracle, me dit Akikaze Rosa, mais il faut bien trouver une solution intermédiaire. Lisons, même l'Azerbaïdjan, grand pourvoyeur de pétrole et de gaz, se met un petit peu au vert, début de l'article. L'hôte de la COP29 vient d'obtenir un prêt de 480 millions d'euros de la Banque centrale, de la Banque européenne de développement, la BERD, et de deux banques asiatiques pour financer deux nouvelles centrales nucléaires. Bakou est loin d'être une exception. Le Qatar, par exemple, puissance pétrolière, a annoncé en septembre une future ferme solaire qui produira 2 gigawatts à l'horizon 2030. Au total, 50 pays devraient avoir installé des centrales nucléaires pour une capacité d'au moins 1 gigawatt fin 2025, qui est l'équivalent d'un réacteur nucléaire standard, ce qui n'est pas rien. Les adeptes de cette énergie abondante et gratuite se trouvent aussi bien dans des régions très ensoleillées comme l'Égypte, qui possède la sixième plus grande centrale solaire du monde, que confrontée au froid polaire comme la Finlande. Longtemps reléguées derrière l'éolien, les centrales solaires grimpent désormais sur le haut du podium des énergies renouvelables et elles partent de loin, ça n'a pas toujours été le cas. En 2023, la part du photovoltaïque dans la production mondiale d'électricité n'était que de 5,5%. 2023, c'était il n'y a pas très longtemps. En 2023, le réseau mondial a déployé 447 gigawatts de capacité solaire, trois fois la puissance électrique installée en France. Vous vous rendez compte ? En 2023. Cela représentait 78% de la totalité des nouvelles capacités renouvelables ajoutées, l'éolien n'en apportant que 20%. Donc l'énergie qui a le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots, du côté des renouvelables, c'est le solaire plus que l'éolien, et 2024 promet d'être une nouvelle année record. Cette expansion est largement due à la Chine. Le leader de l'énergie solaire, loin devant les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Allemagne, a battu tous les records en installant 253 gigawatts de nouveaux panneaux en 2023, alors que le reste de la planète n'en installait que 194. La Chine, en 2023, a installé plus de panneaux que tout le reste du monde. C'est quand même ouf. Plusieurs raisons expliquent cet essor. Le prix des panneaux solaires ne cesse de diminuer alors que leur capacité augmente. Il a été divisé par près de 10 en 10 ans. Par ailleurs, les frais de maintenance sont relativement faibles pour ces installations faciles à implanter et démonter, moins coûteuses que l'éolien. La Chine est écolo, dit It's West. C'est un paradoxe, mais c'est pas faux. La Chine est un des pays qui pollue le plus au monde en raison de son économie, bien sûr. Mais la Chine est l'un des pays, sinon le pays, qui met le plus la pédale sur l'accélérateur sur les énergies renouvelables. D'abord parce qu'en fait, ils sont extrêmement compétitifs en matière de voitures électriques, vous le savez. Donc ils ont un intérêt économique à le faire parce qu'ils sont en train de devenir le leader de la voiture électrique au niveau mondial. Et puis, leader aussi du marché des panneaux photovoltaïques. Voilà. Moulbit dit pays qui pollue beaucoup en raison de son nombre d'habitants et superficie du pays. Ouais, enfin son nombre d'habitants surtout. C'est pas faux. Donc c'est un pays qui pollue, mais c'est un pays qui avance très très vite sur la voie des énergies renouvelables. Voilà, c'est paradoxal, mais c'est vrai. C'est ce que dit Blacky Nounours, c'est intéressant. La Chine n'est pas écolo, ils ont besoin d'énergie, ils s'en procurent par tous les moyens. Ouais, c'est pas faux non plus. Ouais. Mais par exemple, si on compare avec les États-Unis, hein, dont on pourrait dire la même chose des États-Unis, hein. Les États-Unis ont besoin d'énormément d'énergie et ils seraient prêts à tout pour en avoir. Pourquoi les États-Unis, dans ce cas, n'ont pas une politique aussi volontariste que la Chine, hein? Alors qu'économiquement parlant, on pourrait considérer que ces pays peuvent se comparer. Question. Hein? Merci, said no one ever lol. Et puis c'est l'usine du monde, vous avez raison. Avec tous nos vêtements, etc. Désormais, l'énergie solaire photovoltaïque à grande échelle est l'option la moins coûteuse pour la production d'électricité dans une grande majorité du monde, dit aujourd'hui l'OCDE. D'aucuns voient un avenir radieux à cette énergie intermittente, mais qui suscite moins d'opposition que les populations, que l'éolien. Vous savez que l'éolien, tout le monde trouve ça formidable, sauf quand c'est à côté de chez soi. Bon, l'éolien, ça provoque, le solaire, ça provoque moins de levée de bouclier. C'est la source d'énergie primaire la plus abondante sur la planète. Elle recourt à une technologie facile à mettre en œuvre, souligne le président de la commission solaire du syndicat des énergies renouvelables en France. En France, justement, le gouvernement, vous le savez peut-être, vient de confirmer l'obligation d'équiper les parkings d'ombrières photovoltaïques, des infrastructures recouvertes de panneaux permettant à la fois de faire de l'ombre et de produire de l'énergie. Hein, c'est une obligation, même si les parkings ont demandé un report, je crois que ce ne sera pas reporté. Ces panneaux s'installeront aussi de plus en plus dans les champs utilisés pour les cultures et les élevages pour créer de l'ombre et réduire les besoins en eau tout en créant de l'énergie. Leur potentiel est vaste. Hein? Leur potentiel est vaste, le solaire pourrait s'imposer comme la première source d'énergie primaire au monde, prévoit l'un des scénarios de l'AIE. Voilà pour l'article, et je vous lis. Très bonne question d'Hard Rock Gamer, est-ce qu'on ne peut pas équiper directement le panneau solaire sur les vaches? Défécateur officiel, comment vas-tu, mon ami, nous dit qu'on travaille sur le sujet en France. Le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, a battu le record du monde du rendement d'un panneau photovoltaïque. Il bosse sur des panneaux hyper innovants. Trop bien. Je me rappelle avoir couru dans le Sahara pendant une semaine et j'avais des petits panneaux photovoltaïques tout petits sur mon sac à dos pour charger notamment mon téléphone portable pour faire des photos. C'était pas terrible. Hein. Je peux pas, Paul. Je n'emploie personne, moi. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un alternant. Je voudrais bien te rendre service, Paul. J'ai bien du mal à m'occuper de moi-même, déjà. Sur quel site il y a les journaux salut, Couscous. Pas sur des sites. Je lis les journaux, en fait. Tout ça, ce sont des... C'est Libération, c'est l'Humanité, c'est le Figaro, ce sont les Échos, c'est l'Équipe, c'est le Monde, c'est l'Opinion, c'est la Croix, c'est... etc. Que je télécharge tous les matins, en fait. Voilà. Meilleure source d'infos. Let's go. Ah, c'est intéressant ce que dit Guillaume sur la ville de New York, mais je ne suis pas au courant. Il est dur le marathon des sables ? Non, pas si tu t'entraînes, non. C'est quoi le monde des 12 Infinitim ? J'ai fait deux marathons des sables, Burger Fridge, je l'ai fait deux fois. La 30e et la 31e édition, je crois. Enfin, je ne sais plus. C'était longtemps. Ah, c'est Dofus. Il y a un nouveau Dofus, là, non ? Il y a un nouveau Dofus, hein, c'est ça ? D'accord. Il y a un nouveau, là. Hein. Que penses-tu des agrégateurs pour s'informer ? Ouais, je suis un vieux truc, moi. Moi, j'aime bien savoir exactement... D'où vient l'info ? En fait, moi, j'ai besoin de savoir quand une information arrive à moi, qui me donne cette info ? Le problème de l'agrégateur, c'est qu'il ne me dit pas d'où vient l'info. Il agrège, par définition. Et moi, je suis maniaque, je refuse d'être informé sans savoir qui me donne l'info. Parce que ne pas savoir, c'est potentiellement être manipulé ou recevoir une information de piètre qualité. Voilà. Et donc, agrégateur, à la base, ça ne me plaît pas trop, quoi. Je suis sûr qu'il y a des agriculteurs qui font du très bon travail. Hein. Il me semble que le Maroc investit énormément dans l'énergie solaire. Oui, Scocpo. Je me demande même si le plus grand champ de photovoltaïque au monde, je me demande s'il n'est pas au Maroc. Bon, à moins que la Chine ait fait mieux depuis. Quoi. Ouais. Intéressant. Hein. Tu en penses quoi du Sahara marocain ? On ne va pas en parler ce matin, Moaz, mais on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé ici. Il n'y a pas si longtemps, notamment quand la France a un peu changé d'avis là-dessus. Ouais. On ne va pas le refaire tous les jours, sinon ça n'en finit plus. Ouais. Sahara marocain, Sahara occidental, je ne vais pas rentrer sur le sujet. Pas ce matin. Pas ce matin. On va manquer de temps. Ouais. Ouais. Ah ! Bon, là, on va se poser. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant le sommaire, j'ai hésité d'abord à me pencher sur ça, parce que je me disais, bon, bah, quoi de neuf que je n'aurais déjà dit sur le sujet, puisqu'on a déjà parlé à plusieurs reprises de ce procès des 51 hommes qui comparaissent pour avoir violé, avec la complicité de son ex-mari, Madame Gisèle Pelicot. Hein, 51 hommes qui comparaissent, puisque ceux-là ont été confondus, retrouvés. Il y en a peut-être plus au total, et même sûrement. Mais je parle du procès de ces 51 hommes. Et puis j'ai lu ce dossier, et je me suis dit, non, il faut que je vous le partage, parce que cet article est un hommage à cette dame, je pense qu'il est nécessaire. Voilà. Gisèle Pelicot, une pour toutes. Devenue une icône féministe, elle devrait s'exprimer aujourd'hui avant le début des plaidoiries de la défense. Dernière ligne droite du procès historique de 51 hommes dont son ex-mari accusé de l'avoir violée sous emprise chimique. Édito d'abord de Dove Alphon, excellente éditorialiste de Libération, intitulé « Héroïsme ». Gisèle Pelicot, une femme on ne peut plus normale, devenue une figure de lutte mondialement reconnue, car au départ, il n'y a qu'une vie tranquille, une femme une famille idéale, un mari tellement prévenant, expliquait-elle aux enquêteurs avant de découvrir l'horreur de ce qu'elle avait vécu. Donc une vie normale, un début de retraite assez sympa. Et puis commencent des symptômes que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer, entre fatigue incompréhensible, troubles de mémoire, jusqu'à l'arrivée des policiers qui donc lui annoncent l'invraisemblable. Son mari, père de ses trois enfants, l'a drogué, puis violé à son insu, durant presque 10 ans, pour ceux qui ne connaissent pas les faits, invitant dans leur maison de Mazan, commune de 6000 habitants près de Carpentras, au moins 50 hommes pour faire de même. Et c'est dans cet égout, les libérations, alors même que le président du tribunal lui hésitait sur la conduite à suivre dans ce procès inédit et terrifiant, que tombe alors la décision de Gisèle Pelicot, eh bien ce procès ne sera pas à huis clos. Voilà. Tout le monde pourra assister à ce procès, tout le monde pourra entendre, tout le monde pourra voir les images. On ouvre tout, on déballe tout, on diffuse tout. Et ça, c'est une décision que Gisèle Pelicot a prise. De victime, elle devient héroïne pour des millions de femmes. Je voulais, dit Madame Pelicot, que toutes les femmes victimes de viol puissent se dire « Madame Pelicot l'a fait, on pourra le faire ». La septuagénaire pourrait prendre la parole une dernière fois cette semaine. Pour elle, pas question d'héroïsme, elle ne se voit pas comme une héroïne. Elle dit « J'exprime surtout ma volonté et ma détermination pour qu'on change cette société ». Voilà, ça c'est l'édito, et puis on va lire un petit peu l'article qui explore un petit peu cette idée d'icône féministe malgré elle. Libération dresse donc le portrait, écrivent Stéphanie Arougnan et Marlène Thomas, de celle qui n'a pas choisi son statut de nouvelle icône féministe. Lisons cet article que je trouve vraiment très bien écrit. Il a fallu un long processus pour que elle accepte d'endosser ce rôle et une décision déterminante, écartée, donc je vous le disais à l'instant, le huis clos autour du procès. Le huis clos, c'est quand un procès n'est pas public, hein, tout simplement. Voilà. Lorsque les premiers articles sur son histoire paraissent, plus d'un an avant le procès, elle était horrifiée, elle était écœurée par l'étalement de sa vie privée, ce qu'on peut comprendre. Au printemps 2024, lorsque les dates d'audience du procès sont enfin annoncées, Gisèle Pelicot n'a lu que très peu de procès-verbaux du dossier d'instruction et vu que quelques images. Et puis, un jour arrive, qui est le jour où, au cabinet de son avocat, est organisé un visionnage des images, puisque son ex-mari filmait. Et là, il se passe quelque chose. Son avocat raconte, elle était ulcérée, elle a vraiment pris conscience de ce qui se jouait dans ses vidéos, à quel point elle n'était plus rien dans les mains de ces hommes. Et là, c'est la colère qui supplante la honte. C'est là qu'elle a commencé à évoquer la levée du huis clos. Ses avocats racontent, on lui a demandé de réfléchir. Il ne s'est pas passé 24 heures avant qu'elle nous rappelle pour nous donner sa décision. C'était tout réfléchi. Elle n'y reviendrait pas. C'était de l'indignation. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Il fallait que les gens voient. Une décision capitale, puisqu'en acceptant de livrer publiquement son intimité et les violences subies, imaginez, hein, c'est accepter que tout le monde puisse voir, hein, les gens qui viennent à l'audience, tout le monde. Ce qui lui était arrivé. En acceptant de livrer publiquement son intimité et les violences subies, Gisèle Pelicot devient alors le porte-voix des victimes qui brisent avec elle le silence. Les lignes d'écoute comme celle du collectif féministe contre le viol, du centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, mais aussi le 3919, le numéro national Violence Femmes Info, en perçoivent les effets directs. On a depuis le démarrage du procès plus d'appels de femmes sur la question de la soumission chimique, mais aussi davantage sur le viol conjugal de manière générale. Voilà. Et Time Backpacker a écrit son procès une résonance internationale. Oui, on en parle dans le monde entier, je vais en parler. Des milliers de manifestantes ont donné à voir dans les rues de plusieurs villes l'étendue du retentissement de ce procès. Il y a des milliers de manifestants et des manifestantes qui sont mobilisés pour dire son soutien à cette femme. Au palais de justice d'Avignon, dès le petit matin, ils sont encore une bonne centaine, en majorité des femmes, à patienter tous les jours pour assister au débat depuis la salle de retransmission, hein, pour soutenir Madame Pelicot, scrutant chaque passage de Gisèle Pelicot, la foule se presse au milieu du hall, formant une haie d'honneur. Tous les jours, le public l'applaudit. Les merci résonnent. Celles et ceux... Merci beaucoup Orly, merci Valoudur. Merci Said No One Ever Lol. Celles et ceux qui ne peuvent se déplacer lui écrivent des courriers par centaines, des encouragements, des remerciements, des témoignages aussi qui la bouleversent, témoignent les avocats, parce qu'elle lit toutes ces lettres. Certains soutiens viennent de loin, comme ses deux amis ayant conduit toute la nuit depuis la Suisse pour assister à l'audience, cette lettre envoyée depuis le Kurdistan irakien, cette écharpe de soie offerte par un groupe de femmes australiennes, un intérêt international qui se traduit sur les bancs des médias, États-Unis, Mexique, Allemagne, Australie, Japon, des journalistes du monde entier se pressent à cette audience. Ce sont sûrement les rues qui le racontent le mieux, celle de New York où son nom s'affiche sur un collage féministe, en miroir de celle d'Avignon devenue un espace d'expression libre en son soutien, mais aussi celle de Paris, de Lille, de Lyon, où les street artistes ont stylisé sa silhouette. Elle sourit désormais plus franchement, elle envoie des baisers au public, elle accepte des bouquets de fleurs, elle s'attarde même parfois auprès du public pour glisser quelques mots. La première fois que le tribunal a diffusé les images de ces viols, c'est même elle qui a pris le temps de réconforter un groupe d'adolescentes éprouvées, croisées au feu rouge près du palais de justice. Elles se sont de responsabilité très claire aujourd'hui, remarque Antoine Camus. Ces marques de soutien essentielles pour elle, ça l'aide à tenir, surtout à l'issue d'audience. À l'issue d'audience éprouvante, y compris physiquement, dit son autre avocat, qui s'en inquiète un peu, le soir il y a le cafard. La dimension sacrificielle, je ne sais pas si elle va l'avoir jusqu'au bout. Pour finir, la parole à Madame Pellicot. À la barre, fin octobre, elle avait confié « Je ne sais pas comment je vais me reconstruire. » À bientôt 72 ans, je ne sais pas si ma vie me suffira pour me relever. Incroyable. Voilà, je pense que cette femme aurait préféré ne pas devenir une héroïne et ne pas avoir à connaître ça, mais voilà ce qu'elle, voilà, elle est devenue. Merci Libération pour ce bel article. Pour le coup, voilà, les journalistes sont des hommes et des femmes qui font plus ou moins bien leur travail, et parfois il y a des articles qui sortent un petit peu de l'ordinaire comme ça. Moi, des articles sur ce procès, j'en ai lu plein et ils sont tous très très bien, mais celui-ci, je le trouve incroyable. Voilà. Incroyable, comme cette femme-là, sans doute aussi. Voilà. Donc voilà, au début, je me suis dit, non, je ne vais pas lire un nouvel article sur l'affaire Pellicot, puis après j'ai lu l'article, je fais, si, quand même. Incroyable, incroyable. Alors, tu n'as rien compris, en fait, Martin. Elle n'est pas héroïque, elle est victime, l'amalgame est bizarre. Non, elle est victime et héroïne. Elle est victime de crimes monstrueux et elle est héroïne par le combat qu'elle a décidé de mener en rendant public ça, Martin. Tu n'as pas écouté ou bien ? Tu peux être victime et héroïne, en fait. Même si, je le répète, je pense que cette femme aurait préféré ne pas être héroïne du tout et ne pas être victime. Voilà. Et ne pas accepter, comme tu viens de le faire maladroitement, le statut d'héroïne malgré elle à cette femme, c'est l'insulter, en fait, une nouvelle fois. Encore une fois, quand vous savez sur la question des viols en France, par exemple, hein, que c'est un phénomène sous-éclairé, comptabilisé, parce qu'en fait, de nombreuses victimes de viol n'osent pas témoigner. Vous le savez, ça, hein ? Vous savez que la répression de ce crime dans un pays comme la France est très faible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord parce que beaucoup de victimes n'osent pas témoigner, parce qu'elles disent qu'elles ont honte. Voilà. Et qu'après, la charge de la preuve est parfois très très difficile à faire, et qu'au total, le nombre de condamnations est infime par rapport à l'immensité du phénomène. Voilà. Donc elles hésitent à témoigner, on a du mal à les entendre et à les croire, et après, la charge de la preuve est tellement compliquée que la plupart du temps, l'accusé est relaxé. Donc c'est une héroïne. C'est une héroïne. Voilà. Et parfois, on se dit à quoi bon, exactement, qui mise, qui c'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça. Dis donc, Arc Fatalis, là, tu vas bien ou bien? Mais non, mais en fait, depuis ce matin, tu dis que des conneries, toi. Parce que vous savez que les streamers, ils ont l'historique des gens. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as prêté ton compte à ton petit frère ou... C'est marrant parce que, tu sais, parfois, tu remontes dans l'historique, puis tu vois que l'historique est à peu près OK, et puis tu vois que là, subitement, sur 3 ou 4 heures, le mec raconte que de la merde. Tu as prêté le compte à ton petit frère ou on te l'a volé? Qu'est-ce qui se passe? C'est dingue, ça. Ou t'es bourré. À 12h29. Ouais. Ou une mauvaise journée. Ou les trois. C'est ton petit frère bourré qui a passé une mauvaise journée. Ouais. On n'est pas mercredi pourtant. Reprends-toi, chouchou. C'est mignon parce qu'il y a quelqu'un qui vient de dire dans le chat, Sam, je ne pense pas que ban les gens soit une solution. Et en fait, alors tu ne le sais pas, mais ton compte, et c'est marqué utilisateur suspect parce que les modérateurs ont estimé que dans le passé, tes commentaires étaient un peu particuliers. Donc c'est, c'est intéressant de voir que ceux qui estiment que le ban n'est pas une solution sont parfois ceux qui sont à source du problème. Je t'apprends que tu es sous surveillance par les modérateurs. Bah, il est fiché, ouais. C'est intéressant, hein. Ah oui, parce que vous n'êtes pas très nombreux à être sous surveillance, hein, mais c'est un truc comme ça, utilisateur suspect, c'est un petit truc là. Mais vous êtes très peu en plus. Non, tu ne l'es pas, El Panda. Non, il y en a très très peu, c'est une infime minorité. La carotte sévère, tu ne l'es pas, non, mais il y a très peu. Incroyable dossier dans Libération, voilà. Quand je vous dis que pour moi, la source, la presse écrite quotidienne, notamment nationale, est la meilleure source d'information, bah, je trouve que le dossier qu'on vient dans Libération, c'est un exemple, une illustration de ça. Ce serait la dernière compétition de l'immense Rafael Nadal, qu'adore, tu n'es pas fiché S, la dernière coupe peut-être pour Nadal qui livre sa dernière compétition là, en ce moment. Coupe Davis, quart de finale, Pays-Bas contre l'Espagne, c'est à 17h. Un mois après avoir annoncé sa retraite sportive, Rafael Nadal, 38 ans, dispute pour l'Espagne son ultime tournoi à Malaga. Immense émotion qui peut durer jusqu'à dimanche, jour de la finale. Joe Panda, tu n'es pas sous surveillance. Faut lire le tweet de Roger Federer, il est magique. Vous êtes nombreux à m'en parler. Je vais aller le voir parce que vous êtes plusieurs à me parler du texte de Roger Federer. Je pense que c'est ça. En plus, c'est intéressant parce qu'il ne tweet pas souvent, manifestement. Oh, il est long. Il ne tweet pas souvent, en plus. Alors, je vais le traduire rapidement, hein, en espérant dire pas trop de bêtises. Vamos, Rafael Nadal. Donc, c'est un petit message pour Nadal de la part d'un autre GOAT qui est Federer. Alors que tu approches du moment de la retraite sportive du tennis, j'ai quelque chose à partager avec toi. Et before I maybe... Before I maybe get emotional. Ce qui est évident d'abord, tu m'as battu beaucoup, plus de fois que j'ai réussi à te battre, toi. Tu m'as challengé, tu m'as fait me dépasser de manière que personne d'autre l'a fait. Je traduis très vite, hein. Tu m'as fait travailler plus que jamais j'aurais pu imaginer. Je pense qu'il fait allusion notamment à la question de la terre battue. Tu m'as fait réimaginer mon jeu. Enfin bon, un hommage incroyable, quoi. C'est drôle.
Il fait allusion à tous les petits tics de Nadal. Ah ben non, bah, bah non. Tu l'as en VF ? Ah ben non. Il a écrit en anglais. Il a écrit en anglais. Voilà, il fait allusion à tous les petits tics de Nadal, tu sais. Ranger tes bouteilles d'eau comme des soldats en formation, arranger tes cheveux, réajuster ton maillot. C'est drôle. Alors, mais attends, il y a la trad du coup. Attends, on va traduire le poste. En anglais. Ah ouais, c'est bien fait en plus, c'est bien fait. C'est top, c'est top. Tous ces rituels, c'est trop mignon. Ouais, ça va être plus rapide quand même. Comme je suis pas bilingue. Et tu sais quoi, Rafa, tu m'as fait apprécier encore plus le jeu. Bon, peut-être pas au début. Après l'Open Australien en 2004, j'ai atteint la première place du classement pour la première fois. Je pensais être au sommet du monde et c'était le cas jusqu'à ce que 2 mois plus tard, tu sois entré sur le court de Miami avec ton t-shirt rouge sans manches, en montrant tes biceps. C'était le début de la carrière de Nadal et que tu m'as battu de manière convaincante. Tout ce buzz que j'avais entendu à ton sujet à propos de ce jeune joueur incroyable, un talent générationnel qui allait probablement gagner un jour un tournoi majeur, n'était pas seulement du battage médiatique. C'est trop mignon. Ouais. Hein ? Quoi ? Quel message privé ? Quoi ? Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est que des messages de boulot. Hein. Toi, vous savez déjà tout. Hein. Ouais. Ah là, là ! Ah bah ouais, Inox, Douag, Ted Etienne, Arkenir, Vince, c'est que des streamers. Ouais, je parle que de boulot, moi. J'ai effectivement envoyé un petit message de soutien à Inox. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, j'ai rien à cacher. Hein. C'est que du taf, moi. Voilà. Ça, c'est cool, parce que pour le coup, de n'avoir rien à cacher, c'est très agréable, parce que vous pourriez littéralement lire mes messages, vous verriez, ça parle que de taf, quoi. Voilà. Ouais, je n'ai pas de vie sociale, je n'ai qu'une vie professionnelle. Merci Karine Carvi pour le raid. Merci Zid Armstrong pour le 16e mois. Merci Dwayne Fela. C'est très agréable parce que du coup, quand tu n'as rien à cacher, quand tes messages pop comme ça, tu dis bah oui, c'est que des messages de boulot. Merci Dwayne Fela. Merci Aurélie. Merci. Ouais. Après, tu peux lire du pro, attention. Oh, c'est pas très grave. C'est juste du taf. Nous étions tous les deux au début de notre parcours. Nous avons fini par le faire ensemble. 20 ans plus tard, Rafa, je dois dire quel parcours incroyable tu as eu, y compris 14 Roland-Garros historiques, tu as rendu l'Espagne fière, tu as rendu le monde du tennis fier. Il est beau ce texte. Je n'arrête pas de penser aux souvenirs que nous avons partagés, la promotion du sport ensemble, le match joué sur un terrain mi-herbe, mi-terre battue, le record d'affluence de tous les temps en jouant devant plus de 500 000 fans au Cap en Afrique du Sud. Nous nous sommes toujours fait rire, nous sommes épuisés sur le terrain et parfois nous avons dû nous soutenir pendant la cérémonie de remise des trophées. C'est beau, hein ? Je suis toujours reconnaissant. Que vous m'ayez invité à Majorque pour aider à lancer la Rafale Nadal Academy en 2016. Bon, il raconte plein de petites anecdotes, quoi. Vous avez toujours été un modèle pour les enfants du monde entier. Voilà. C'est beau. Je vais à la fin de ce très beau message. Rafa, je sais que tu te concentres sur la dernière ligne droite de ta carrière épique. Nous en parlerons quand elle sera terminée. Pour l'instant, je veux juste féliciter ta famille et ton équipe qui ont tous joué un rôle majeur dans ton succès. Et je veux que tu saches que ton vieil ami t'encourage toujours, c'est trop beau, et qu'il encouragera tout aussi fort tout ce que tu feras ensuite. Rafa, ça ? Ça veut rien dire, ça. En fait, je pense que c'était la... Pour le coup, la trad ne doit pas être top. Rafadat ? Ça veut dire quoi ? Rafadat ? Ça veut dire quoi ? Best always your fan. Ouais, c'est beau, hein ? C'est un beau texte. C'est un jeu de mots ? Raphaït, Roger Dat, Raphaït pour Roger Dat, je l'ai pas. Roger Dat, je l'ai pas. Je l'ai pas. Merci Valentinoise. En tout cas, c'est un très beau texte. Merci pour le soutien. Ah, fais-le la Rafa. C'est quoi ? C'est bend it like Beckham un petit peu, non ? Ouais. Ah, Roger Dat. Roger that, ça veut dire que j'ai compris, ok. Donc Rafa that right. Oh. Ok, pas mal. J'ai pas la ref. Pas mal. Ouais. Bon, bah bravo. Alors justement, bah, l'équipe, je vous le disais, rend hommage à Rafa ce matin, à Nadal, voilà. Alors c'est un peu moins émouvant que les mots. Merci beaucoup, des Montargariens, c'est adorable. Que moins émouvant que le texte de Federer à l'instant, mais c'est un bel article aussi. À l'aube du dernier frisson, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la dernière compétition de ce mec immense du tennis qui est Nadal. À Malaga, Nadal vit la dernière semaine de sa carrière, cette semaine à Malaga. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem, je ne sais pas si on se rend compte, et tire les derniers instants d'une vie de gloire, 20 ans et plus au sommet de son monde, ou jamais très loin, une dernière danse. Je vous laisse répondre aux questions, aux gens qui posent des questions sur Inox, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je peux confirmer, oui, tes informations. Je vous laisse lui répondre puisque je sais que vous avez les infos. Pour lui, cette semaine, le monde s'est déplacé. On a poussé les murs de la salle de presse où on recense 462 journalistes accrédités. C'est juste incroyable. C'est trois fois plus que l'an passé en ce lieu pour cette même phase finale de la Coupe Davis. Donc voilà, les médias ne s'y trompent pas. Le prix des billets, incroyable. Le prix moyen du ticket pour voir le quart de finale de l'Espagne face aux Pays-Bas cet après-midi à 17h et possiblement les derniers coups de raquette de Nadal s'affiche à 3 373 €. Le prix moyen du ticket, 3 373 €. À 38 ans, on ne sait pas de quelles émotions seront faits ces derniers jours de tennisman professionnel. C'eût été un tournoi sur le circuit, une compétition normale, un adversaire désigné, ça aurait été sans doute plus simple d'appréhender ce moment, victoire, défaite. Mais là, Nadal est tout à la fois au-dessus du monde et au milieu de tous, puisque là, il joue en sélection. Il joue en sélection. Et en fait, au moment où le journaliste écrivait ses lignes, on ne savait pas, notamment même si Nadal allait pouvoir jouer en simple. Voilà. Puisque ça, c'est le sélectionneur de l'équipe de l'Espagne qui va faire ce choix au service d'une sélection nationale qu'il a si souvent portée à bout de bras, mais au sein de laquelle, à l'aube de ses derniers frissons, il ne connaissait hier toujours pas son rôle. Donc il y a un monde où Nadal ne va peut-être pas jouer en simple pour son dernier tournoi. Il y a Nawal Paris qui me dit d'ailleurs que Nadal a annoncé privilégier la compétition en double à celle en simple, l'équipe avant tout, il est vraiment, ce mec est beau jusqu'au bout, quoi. C'est incroyable. C'est fou. Sid a framé, moi je l'ai fait tout à l'heure, mais tu n'étais pas là. Merci Miss Bados. Bon, bravo. Bon, encore un. Ouais. Ça y est, si, on est sûr qu'il joue en simple. Il y a Adri et Yanox qui a dit qu'il joue en simple. Peut-être. Hein. Attendez, on va vérifier cette info. On vérifie toujours ici. Moi, je trouve ça formidable. C'est officiel, ça a été annoncé. Parce que l'article a été écrit hier soir. Ouais, c'est tombé il y a une grosse demi-heure. Voilà, Coupe Davis, Rafael Nadal aligné en simple. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Face aux Pays-Bas pour le premier match. Voilà. David Ferrer a pris cette décision. Voilà, il va affronter Botic van de Zandschulp. Putain, je ne sais pas qui c'est. C'est un Néerlandais. Téléphone qui sonne, on ne sait pas qui c'est. Je ne connais pas le numéro, désolé. Si la personne me regarde en live, c'est un numéro qui n'est pas enregistré. Je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est qu'on ne doit pas se connaître très bien. Et puis, je suis en live. Voilà. C'est à 17h. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Ça, c'est top. Sur quelle chaîne, je ne sais pas du tout. Longtemps, c'était sur France Télévisions, ça. Hein. C'est Bein Sport, là. C'est le secrétariat de l'Élysée, tu es nommé Premier ministre. Oh, je veux pas, ça m'intéresse pas. C'est sur Bein Sport, d'accord, ok. Incroyable. Allez, Oh, c'est drôle, ça. Oui, alors je vous raconte pas que des catastrophes. Imagine, c'est Nadal qui voulait m'appeler. J'adore cette histoire. C'est dans le Figaro. C'est l'histoire d'une IA
Qui m'appelle? Il y a urgence. Alors, ça raconte quoi? Non, je vois rien. L'histoire d'une IA, une grand-mère IA, je sais pas. Royaume-Uni, l'histoire elle est géniale. Une grand-mère dopée à l'IA va piéger les arnaqueurs. Cette petite. Cette petite grand-mère aux cheveux bouclés pourrait devenir le pire cauchemar des arnaqueurs téléphoniques au Royaume-Uni. L'opérateur Virgin Media a mis au point une IA pour faire tourner en bourrique, vous savez, les brouteurs. Hein, c'est des marcheurs téléphoniques qui tentent de soutirer de l'argent. Désormais, ils courront le risque de tomber sur Daisy, hein, cette vieille dame imperturbable et terriblement bavarde. L'objectif, maintenir les escrocs occupés afin de réduire le nombre de victimes. Pour cela, Daisy s'exprime lentement, elle fait mine de ne pas comprendre. Ce que dit l'arnaqueur propose de lui montrer des photos de son chat. Selon l'opérateur, l'IA est capable de garder le brouteur au bout du fil près de 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, bah, le mec n'est pas en train d'essayer d'arnaquer quelqu'un de réel. Pour l'appâter, Virgin Media 02 a ajouté le numéro de Daisy dans la liste des numéros utilisés par les escrocs. Le programme d'IA a utilisé une combinaison de modèles réalisés en collaboration avec Jim Browning, qui est un vidéaste spécialisé justement dans la traque des arnaqueurs sur, en ligne. D'ailleurs, il y a une streameuse française qui fait ça d'ailleurs. Qui m'arrête plusieurs fois. Un premier pas pour endiguer l'épidémie d'arnaque en ligne au Royaume-Uni, à l'heure où 22% des Britanniques rapportent faire l'objet d'une tentative de fraude au moins une fois par semaine, ce qui est juste énorme. C'est incroyable. J'adore cette histoire. Voilà. Il faudrait en faire plein. Il faudrait saturer. Voilà. Il faudrait créer plein d'IA comme ça avec plein de gens. 45 minutes, t'imagines, les mecs, ils vont se lasser, quoi. T'imagines le mec, là, fin de journée, tu vois, entre brouteurs, entre eux. T'as eu combien de coups de fil aujourd'hui? 10. 10 seulement, ouais, 10 fois 45 minutes, c'était que des IA. Ce serait incroyable. C'est top ça. Ils vont faire des IA eux aussi? Ah ouais, peut-être, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, c'est pas faux. Eux aussi utilisent des IA? C'est vrai, Vinzom? C'est déjà le cas ou pas? Mmh. Pas avec tous les mardis, non, pas au restaurant. Non, il n'y a pas de resto aujourd'hui. Ce soir, il y a le retour d'Elden Ring. Je n'ai pas joué depuis des mois à Elden Ring, le grand retour d'Elden Ring tout à l'heure. Ouais. The Witcher, on a fait le retour il n'y a pas très longtemps, mais t'as raté le stream, tu l'as en replay sur YouTube. Vous avez été très nombreux à me réclamer un retour sur The Witcher. Je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Voilà. C'est fini l'Arc Valo? Sûrement pas. Peut-être cet après, mais je voulais faire du sport aussi. Ouais. Il pleut toute la journée, tu ne vas pas pouvoir faire du sport. Je pense que ça mérite de stream l'après-midi pour compenser, me dit Mix. J'ai un abonnement en salle aussi. Ouais. Ouais. Dorian S94. Merci Miss Vados. C'est quoi ton sport? Oh, je fais la course à pied. Pour très original. Et on finit avec la sortie aujourd'hui. Quelle salle? Je vais pas te dire, Phoenix, t'es fou ou quoi? Après, je vais me faire. Il y a des gens qui vont me kidnapper. Comme Inox. T'y es fou ou quoi? Tu veux pas mon adresse et mon digicode et mon étage aussi. Quelle salle? Bah oui, mais je vais dire à quelle heure aussi. Hein? Tu veux pas mon IBAN directement? Hein? Et mon numéro de sécu? Hein? Et mon code de CB? La sortie aujourd'hui de la dernière évolution de Flight Simulator, une pleine page dans les échos. La Terre comme vous ne l'avez jamais vue, le journaliste du Parisien, Aymeric Renou, est totalement séduit par le jeu. Flight Simulator, la nouvelle version du plus célèbre simulateur de vol, sort ce mardi et nous invite à survoler une reproduction numérique absolument bluffante de notre planète, récit d'une prouesse. Let's go. C'est vrai que le journaliste est totalement séduit. Mais quand on lit l'article, c'est vrai qu'on se dit que le jeu a l'air assez fou. Enfin, le jeu, c'est bien plus qu'un jeu. Je pense que Jean Massier est totalement hypé en ce moment. Lisons donc cet article. Les 12 millions d'aficionados d'aviation virtuelle regarderont avec attention la liste complète des appareils disponibles. Pour commencer, il y a les avions disponibles, bien sûr, mais c'est pas ça qui est le plus fou. Ils ne seront pas déçus. La toute dernière version du jeu Microsoft Flight Simulator, disponible à partir de ce mardi sur PC et console Xbox, permet de prendre le manche de plusieurs centaines de modèles différents, du petit Cessna à l'énorme Airbus, en passant par les coucous datant de la Première Guerre mondiale et des jets dernier cri, hélicoptères et montgolfières sont même de la partie. Ce n'est pas ce qui nous a fait lever le sourcil. MSFS 2024, comme l'appellent les habitués, est bien plus qu'un simple jeu vidéo de simulation de vol. C'est une véritable prouesse technique et géographique. Car il ne s'agit plus seulement, pour celles et ceux qui souhaitent jouer au pilote virtuel, de rallier un aéroport A à un aéroport B en gardant un œil sur les multiples écrans d'instrumentation plutôt pour surveiller la trajectoire, l'altitude, le niveau de kérosène. Dans sa version 2024, et ça c'est nouveau, Flight Simulator pousse l'obsession du détail dans chaque centimètre carré de la surface de la Terre, depuis qu'il est possible de survoler depuis un ordinateur ou une console Xbox, le résultat, est bluffant d'authenticité. Alors le directeur de la production du jeu chez Microsoft explique: nous avons amélioré, écoutez bien, la résolution par un facteur 4000 par rapport à la version... Attends, j'ai une idée d'un coup là. J'ai mis un flash là. Oui, avec... Non, j'ai pas une idée, je l'ai eu dans le chat comme d'habitude. Ouais, avec Jean Massier, bien sûr. Oh, j'ai eu un flash là. J'ai un flash de fou là. Non, j'ai vu un truc là. Ok, faut que j'appelle Jean après ce stream. Ouais, merci à vous. Putain, les meilleures idées me viennent toujours du chat, moi. Incroyable. Ok. Putain. J'ai peut-être un flash là. Non, je peux pas l'appeler maintenant parce que j'appelle deux autres personnes avant. Bref, en rapport avec ça. Bon, on continue. Le résultat est bluffant d'authenticité. Nous avons amélioré la résolution par un facteur 4000 par rapport à la version datant de 2020, se réjouit le directeur de la production chez Microsoft. La résolution a été améliorée par un facteur 4000. Ils ont fait fois 4000, 4000 fois mieux. On voit désormais des détails au millimètre. Le souci du détail va encore plus loin avec l'utilisation de données publiques. La météo, bien sûr, qui évolue comme elle le fait en vrai, mais aussi le trafic maritime, écoutez, avec la reproduction en temps réel de chaque paquebot ou navire de fret en raison de sa véritable position dans le monde. Vous entendez ça ou pas? Encore mieux, c'est ouf, les concepteurs de Flight Simulator, une équipe de près de 200 professionnels de l'image chez Microsoft, mais aussi chez Asobo. On dit Asobo ou Asobo? Merci Jenny. Comment vas-tu Jenny pour le raid? Les modérateurs, est-ce que vous pouvez épingler la chaîne de Jenil, qui est une excellente chaîne, que je recommande à tout le monde. Merci beaucoup Jenil pour le raid. Pouvez épingler, ce serait adorable. On dit Asobo. Un studio bordelais, Cocorico, déjà à l'œuvre pour la création du précédent opus, pousse le vice jusqu'à faire apparaître des animaux sauvages. Un vol en rasmotte au-dessus des montagnes brocheuses permet ainsi d'apercevoir des ours bruns, car ils y habitent. Cette richesse graphique offre à MSFS 2024 un caractère bien plus grand public que toutes les versions précédentes, la première remontant à 1982. Voilà. Il ne s'agit plus seulement de contrôler les commandes d'un aéronef. D'innombrables missions attendent désormais les pilotes, des défis photographiques, prendre le cliché d'un troupeau de girafes dans la savane au coucher du soleil, des missions de livraison de matériel sur l'une des quelques 900 plateformes pétrolières dont les emplacements réels sont reproduits au mètre près. C'est une dinguerie ça. Ou encore des sauvetages en milieu montagneux. Il est aussi possible de simplement admirer le paysage. C'est ce que font 6 millions de nos joueurs, précise Jörg Neumann, les autres étant des fous d'aviation et de compétition aérienne. Est-ce que c'est pas dingue? Voilà. Moi, je suis subitement hypé par ce truc. Je pense pas que je vais devenir un fou de simulation aérienne, c'est ça? De simulateur aérien? Simulateur aérien? Ouais. Mais je pense que les gens qui s'intéressent un peu à cet univers vont être totalement hypés. Voilà. C'est fou. Et je pense que je vais appeler Jean juste après ce stream parce que du coup, j'ai eu une petite idée là. Petite idée. Voilà. Quel jour on est, mardi ? Ok, d'accord. Bon. Voilà. Bon, ben bah, voilà. Fin de ce stream, bande de beaux gosses. C'était pas mal ce matin. Merci encore, Jenil, pour le raid. Je lis exclusivement les journaux français, ouais. Slash A. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ben, il faut faire un choix. En fait, moi, je pourrais vous lire la presse régionale, mais j'ai pas le temps. Je pourrais vous lire la presse magazine, qui est gigantesque en France, mais j'ai pas le temps. J'ai une manette qui vient de sauter de ma table à l'instant. Je pourrais lire la presse internationale, mais j'ai pas le temps. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de lire cette presse que j'aime, qui est un peu ma presse préférée, qui est la presse quotidienne nationale. Toutes les autres presses que je viens d'évoquer, bah, elles sont très intéressantes. Il y a une presse sur Internet qui est très bien. Il y a une presse indépendante sur Internet en France qui est très bien aussi. Mais voilà, c'est pas un désintérêt, c'est un manque de temps. Le matin, je lis 3 heures à lire les journaux. Si je devais ajouter la presse régionale, la presse magazine, la presse internationale, la presse Internet, la presse indépendante à tout ça, en vrai, je n'y arriverais pas. Donc c'est juste une question de choix. Ne vous interdisez pas, vous, de lire toutes ces presses, bien sûr, si vous avez un petit peu de temps. Voilà. On se retrouve. Moi, j'ai un petit call, j'ai un petit Teams à 13h30 pour préparer le Téléthon Gaming. Ah, je vais vous redonner la date. Téléthon Gaming sur France 2. Hop, la manette redoute déjà la soirée Elden Ring, ça va être énorme. Tiens, faut que je teste. Tiens, tu sais quoi, je vais penser à tester Elden Ring. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé. Je vous donne rendez-vous le vendredi 29 novembre à 00h15. Ce sera super tard. Pour le Téléthon Gaming, mobilisation des streamers, des gamers pour le Téléthon. Voilà. Sur France 2, comme d'habitude. Et pour la première fois sur Twitch, ce sera notamment sur ma chaîne Twitch. Waouh! Donc on aura le chat et tout. Donc ça, c'est incroyable en vrai. Ça veut dire que ce sera. Si on met de côté DALS, émission Danse avec les stars Internet, DALSI. Si on met de côté DALSI, émission pensée pour Twitch, puis finalement devant son succès diffusé sur TF1. Mais c'était pas prévu à l'origine. Cette émission sur France 2 Téléthon Gaming est la première émission pensée pour une codiffusion depuis le début. Voilà. Donc mis à part le DALSI bien sûr. Donc c'est une émission qui sera c'est la première fois à part DALSI que vous aurez une émission à la fois sur une grande chaîne et sur Twitch. Voilà. Et ce sera donc sur France 2 et sur ma chaîne en même temps. Du coup on aura le chat et on pourra intégrer le chat en réaction dans le stream et dans l'émission de France 2 qui sera en direct. Voilà. Voilà. La deuxième du coup, alors c'était ouais mais en même temps c'était un peu différent d'Alci parce qu'au début c'était que sur Twitch et après comme ça a marché TF1 a dit bon on bascule sur TF1 pour les phases finales et il y a eu une telle mobilisation notamment des viewers et des streamers en disant bah non et nous on veut le regarder sur Twitch parce qu'il y a le chat etc. que finalement TF1 a changé d'avis et a décidé une codiffusion. Voilà. Voilà. Codiffusion. Donc là, pour le coup, c'était pensé en amont, il n'y a pas eu besoin d'une mobilisation. Quoi. Voilà. Bon, disons que c'est une des premières fois où ça arrive. Quoi. Ton émission avec Élise Lucet, ce n'était pas le cas. Non, c'était que sur France 2, je crois. Élise Lucet, j'ai fait un truc avec elle sur France 2, puis j'ai fait un stream avec elle, mais je n'ai pas fait les deux en même temps. Ouais. Des bêtises du chat qui seront vues de toute la France, ouais. Dommage que la chaîne n'ait pas accordé un créneau plus grand public. Je suis d'accord, ça s'amuse, minuit 15, c'est un peu tard. Ouais. C'est mieux que rien. Bon, bah, je vous quitte. Va falloir redoubler de modération, peut-être. Oh ouais, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Non, c'est pas samedi 30, c'est minuit 15, oui. Enfin, Alors, Alexandra, elle est très carrée là-dessus. Une journée commence à minuit 1. Donc, théoriquement, cette émission, c'est le samedi, puisque c'est minuit 15. Minuit 15, minuit 30, minuit 15. Mais en fait, c'est vendredi soir, dans la nuit de vendredi à dimanche. Parce que si je vous dis samedi, certains vont se pointer dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, je préfère vous dire que c'est vendredi soir plutôt que c'est samedi, parce que si je vous dis que c'est samedi à minuit 15, je sais qu'il y a des gens qui vont arriver se pointer à samedi soir, minuit 15, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit 15. OK ? C'est clair ? Une journée commence à midi, à 0h, sauf si je dis minuit 15 le samedi, je sais que tout le monde va rater le truc. Voilà. Un stream avec 2 heures de délai pour modérer, non. Sadique. Non, pas du tout. Voilà. On compte sur l'intelligence des viewers. D'ailleurs, c'est marqué utilisateur suspect là. Pardon. Faut pas, on ne devrait pas regarder ça. c'est comme ça. Donc, on se retrouve sans doute pas cet après-midi pour du Valo parce que j'aimerais faire un petit peu de sport. On se retrouve ce soir pour du Elden Ring, le grand retour. Non, Moas, toi, non. Tu ne l'es pas. Le grand retour de Elden Ring ce soir, ça va être quelque chose. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle revue de presse. Fais voir. Ouais. Ah, alors peut-être, regardez, est-ce qu'on peut aller voir l'historique de Sadik? Parce que Sadik explique pourquoi il a été utilisateur suspect et il dit que c'est un petit peu excusé pour ça. Peut-être que les modos peuvent se pencher sur ton cas. Voilà, et demain, eh ben, je vous refais une revue de presse demain. Demain, je vous refais une revue de presse demain. A priori. Voilà. Et mercredi soir, du GTA RP. Jeudi matin, on essaiera de refaire une revue de presse. Il y a peut-être un stream le soir, mais tard. Ah, ça stream. On est sur du double stream en ce moment. C'est pour ça qu'on fera peut-être pas un troisième stream de Valo aujourd'hui. Valo me manque un peu. Ça me plaît, ce sera sur quoi? Suspense. Ça me plaît, dimanche 20h, suspense. Qui est en live? Qui m'écrit là? Petit texto. Ah, quelqu'un m'appelle encore. Qui est en live? On va faire un petit raid. Oh, GTA, c'est quel bonheur. Puis j'aimerais faire du retourner en mode histoire solo, moi, sur GTA aussi. Alors, qui est en live? Alors, ouais. Ah. Ok. Oh. J'ai plein d'envie là. Ouais. Oh. Ok. Oh, putain, c'est fou, toutes ces chaînes, tous ces streamers là, que j'ai envie de raid. Mon cœur balance, mon cœur hésite. Entre un streamer, un copain, et une streameuse, une amie. Bon, les amis. C'est drôle, au moment où je regarde le chat, Cosmodruck vient d'écrire Anae sur Valo. Je vois qu'Anae, une amie streameuse, vient de passer Silver 2 sur Valo, ce qui m'impressionne beaucoup, moi qui suis retombé dans les enfers du bronze. On va donc voir, puisque moi je ne stream pas de Valo en ce moment et ça me manque, on va se prendre une petite dose d'Anae qui justement est sur Valo. Je lis « Bonjour mardi, Valorant en argent 2 » et peut-être après on va sur LOL. C'est parti, je lance le raid, il est en train de charger, je vous souhaite une très belle journée, un bel après-midi, une belle semaine. On se retrouve ce soir au plus tard et demain matin aussi pour la revue de presse. Merci beaucoup, vous allez retrouver quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Anae. Prenez soin de vous, à très très vite, à tout à l'heure, ciao, merci encore.
Non, vraiment, c'est mon chat qui appuie sur les réglages et qui dérègle les trucs, je suis désolée. Bonjour à tous, comment ça va?